Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 8 avril 2025 et c'est l'épisode 406. OpenAI temporise sur GPT-5, mais surprise, continue à pousser encore à fond, contrairement à ce qu'on pensait. Ces autres modèles de langage, on décortique tout ça pour vous. Pendant ce temps, Meta lance la nouvelle version de son modèle de langage Llama, Llama 4, histoire de maintenir un peu la pression lui aussi. On va explorer aussi les nouveautés très visuelles du moment avec Midjourney V7, Runway V4. Préparez-vous, ça va continuer à vous bluffer, je pense. Mais derrière ces progrès, les coulisses de l'IA continuent à grincer encore un peu, avec Wikipédia, par exemple, qui crie à la saturation face aux consommations délirantes de bandes passantes par les bots d'entraînement. On revient aussi sur Microsoft, qui fête, petit papy qu'il est, ses 50 ans. Enfin, petit papy, non, on n'est pas petit papy à 50 ans, mais il fête ses 50 ans, en tout cas. Un demi-siècle d'innovation. On va se mettre un dos plein de gens. Non, c'est pas bien. Allez, c'est un demi-siècle d'innovation, de virage stratégique et parfois, on peut se le dire entre nous, on est entre nous, de quelques plantages mémorables. Côté économie, Trump fait une annonce fracassante avec des nouvelles taxes douanières qui font trembler, j'ose le mot, les marchés financiers et évidemment, notamment sur le secteur de la tech. Et enfin, comment ne pas évoquer la très attendue Switch 2? C'est parti! Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et comme toujours, je retrouve l'architecte du conducteur de cet épisode, Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Écoute, ça va. Non mais moi aussi, je suis un petit peu troublé par Sylvie.
On est troublé par Sylvie. Alors, qui est Sylvie? On va vous le dire. C'est notre nouvelle assistante d'enregistrement, et c'est pas une IA. Enfin, on pense pas en tout cas. On utilise une nouvelle solution pour enregistrer. Avant, on utilisait Skype. Mais ces sacripants de Microsoft, non contents de fêter leurs 50 ans, ont décidé de débrancher Skype au 5 mai. Pour beaucoup, ça ne change pas grand-chose. Pour nous, ça change beaucoup de choses parce que c'était une solution hyper stable et qui nous permettait l'enregistrement cloud. Donc, quand il y avait un souci sur un des intervenants, il y avait toujours l'enregistrement complet qui sauvegardait la solution. On teste une nouvelle solution. Donc, c'est une solution d'Infomaniac qui est gratuite. En fait, vous pouvez aller l'utiliser. Si vous avez un compte Infomaniac, vous pouvez utiliser Kamit pour faire vos conférences en ligne et les enregistrer sur KDrive. Et donc, quand on lance l'enregistrement, il y a Sylvie. On a décidé de l'appeler Sylvie. C'est Guillaume qui a décidé ça. On l'appelle Sylvie et elle nous confirme l'enregistrement. Merci à elle. Donc, on est un petit peu perdu, mais on va s'y retrouver quand même, Guillaume, je pense, non?
Ben, bien sûr, évidemment.
On y va. On se retrousse les manches pour cet épisode et on déroule le tapis rouge pour accueillir Félix Perrault. On accueille également Romain Leclerc, alors qui est parti et qui revient, et puis Julien Grandjean, qui sont les soutiens à Tech Café sur Patreon. Les abonnements sont, allez, moins nombreux qu'auparavant, depuis qu'on est passé à l'abonnement mensuel, plutôt qu'à la participation par épisode. On pouvait s'y attendre, mais merci beaucoup à vous qui déjà maintenez votre abonnement. Et puis, merci également à celles et ceux qui l'envisagent, patreon.com/TechCafé. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui déposent des avis sur les apps de podcast, à commencer pour cet épisode par MagmaLC, qui a déposé un avis très court, toujours aussi riche en contenu tech pertinent, en avis aiguisé et expression désuète. Merci pour votre aide précieuse dans ma veille. Merci à toi, MagmaLC, de nous écouter. Et puis, on compte sur vous aussi pour continuer à commenter sur techcafé.fr et à discuter entre vous et avec nous sur Discord, le serveur est accessible sur techcafé.fr/discord. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et il y a des discussions, alors qui ne sont pas les plus importantes, mais malgré tout régulières, d'auditeurs, Guillaume, qui cherchent à en savoir un petit peu plus sur qui tu es. Alors parfois, je distille peut-être des indices, parfois des fausses pistes sur ce à quoi tu pourrais ressembler avec des IA génératives. J'aime bien voir les spéculations qu'il y a derrière. Mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui cherchent à en savoir plus sur ton identité, j'ai l'impression, sur Discord.
Oui, bah, dans ce qui risque de devenir une rubrique récurrente, hein,
ouais,
il y a Steven 40K qui a aussi découvert mon identité secrète grâce à Claude. Claude lui a dit « Guillaume Poggiaspala, c'est un joueur de rugby à 15. Il a joué centre ou ailier dans plusieurs clubs professionnels français, notamment au RCT. » Alors, au-delà de la blague, il commente n'importe quoi à cette étude d'Anthropique. Et c'est vrai, du coup, il a raison, parce que juste la semaine d'avant, j'avais évoqué que parmi les résultats qu'ils avaient obtenus sur Haiku, les papas de Claude, il avait trouvé un semblant de début d'embryon d'ébauche de métacognition, c'est-à-dire qu'il posséderait des circuits qui s'activent quand il ne connaît pas un truc.
Et que ça uniquement pourrait... quand il ne connaît pas un truc.
Ouais, c'est ça. Et que ça, en fait, ça va conditionner ou non sa réponse à une question. Bon, manifestement, ça ne marche pas tous les coups. Et bien tout ça, c'est super probabiliste, bien sûr. Les activations des circuits, c'est pas binaire du tout. Hein. C'est même, et même en supposant que ça soit bien câblé, c'est-à-dire qu'ils ne se plantent pas juste complètement, ce qui est très, très, très possible. Ben voilà, apparemment, je dois être très flou comme mec. Tu vois, comme il a vu un petit peu tout Internet, ben, il est possible qu'il m'ait aperçu. Mais comme je ne suis pas aussi célèbre et adulé que je ne suis pas François Bayrou, et je m'en accommode, il doit se dire que, ben, je ne sais pas, ce nom accouché sur le papier, il me dit sur le palier, il me dit quelque chose. Je suis presque sûr de l'avoir croisé. Probablement entre tuto carbonara et un coup de gueule contre le prix de la PS5 Pro. Donc, de temps en temps, je dois lui chatouiller les circuits juste assez fort pour le pousser à répondre. Et parce que, comme on disait, une fois qu'il a décidé de répondre, ben, le seuil est passé, quoi, donc il est en roue libre. Et en vrai, ça vous étonnera sans doute, mais j'ai jamais fait de rugby. Donc, c'est un exemple marrant qui montre bien que même si les LLM sont peut-être beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on pourrait penser, ça reste encore vraiment très imparfait et très très flou. Et apparemment, ben Claude, il est flou de moi, manifestement.
Ce qui est fou, et ce qui est flou, et ce qui est fou, c'est que Guillaume Pogjaspala, ça fait très nom de rugbyman aussi, je trouve. Ça pourrait très bien marcher. Maintenant, je m'imagine un immense gaillard comme ça, probablement. Alors, j'y connais rien dans les rôles, dans les équipes de rugby, mais pilier peut-être, non, je sais plus, ailier droit, non, je sais plus. Bon, je vais dire des bêtises. En tout cas, gros gaillard comme ça qui est prêt à se jeter dans la mêlée. Ce qui est plus probable, c'est que tu es en tout cas un gaillard prêt à te lancer dans la mêlée. Des news tech de la semaine et sans autre forme de procès, on attaque avec, c'est un peu le chouchou du marketing et de la communication de l'IA. Ils ont fait leurs preuves dès le début et ils continuent à maintenir la pression dans l'actualité des nouvelles technologies pour les sorties d'IA. C'est OpenAI, Guillaume. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé de nouveau ?
Ben, on peut commencer cette rubrique effectivement avec eux qui, OpenAI, toujours chaud comme une baraque à frites, hein, au sens propre, puisque les GPU tournent toujours à fond, c'est la génération d'images de GPT-4o est disponible pour les utilisateurs gratuits avec une limite de 3 images par jour, donc c'est quand même très limité. Ça suffit pour ghiblifier toute ta famille en moins d'une semaine, hein, ou
c'est
plus,
vrai.
Si tu as une grande famille, ou moins si tu es orphelin, c'est plus pratique.
Fais des portraits de famille.
Sam Altman a posté qu'ils avaient gagné 1 million d'utilisateurs en une heure après le lancement, c'est une croissance monstrueuse qui pourrait même, selon lui, causer des retards à d'autres produits. OpenAI, déjà que 4.5, c'est GPT 4.5, c'est un monstre absolu, il est absolument énorme. Et apparemment, O3 coûte un œil à faire tourner. Et c'est ça aussi, c'est une nouveauté. L'organisation qui s'occupe de ArcAGI, ce benchmark est une suite de petits puzzles visuels, hein, a estimé que O3 coûterait 30 000 $ pour chaque réponse à un de ces problèmes. Donc il y aura un vrai côté force brute, hein, parce qu'apparemment, O3 High ferait plus de 1000 tentatives pour chaque problème, ce qui relativise quand même aussi les scores. Bon, il a eu des scores assez impressionnants au test, mais enfin bon, c'est pas très élégant. Et pourtant, malgré tout ça, O3 devrait finalement sortir, hein, comme tu le disais, de même que O4 et GPT-5, qui seraient finalement plus une sorte de super routeur, des systèmes qui réfléchissent plus ou moins. En fait, cette solution n'est pas si simple à implémenter, et ça m'affirme qu'ils ont aussi trouvé un moyen de rendre GPT-5 bien meilleur que ce qu'ils pensaient. Bon, il faut voir où est-ce qu'ils pensaient qu'il est.
Ils sont forts, ces communicants. Enfin, ces dirigeants, coachés par des communicants, ils sont forts.
Ce qui veut aussi dire que vous allez devoir vous fader le zoo de modèles d'OpenAI pendant un bon moment encore. Hein. Si vous espériez une simplification du menu, c'est foutu. Hein. Ça va continuer d'être comme à Burger King, tu sais, où tu passes 45 minutes sur la borne à hésiter entre la sauce, les tailles de frites et les 40 sodas. Ça n'a pas l'air d'être si grave. Cette semaine, les générations de folie sur GPT-4o, on vraiment continué. Il y a eu énormément d'exemples. Voilà, ça a continué, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et il y a eu, évidemment, une autre foule de style, hein, que Ghibli. Il y avait des peintres classiques au pixel art. Hein, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cas d'usage vraiment sympas. Enfin, tu peux redonner vie à tes dessins de lycée, par exemple. Des dessins faits au feutre, et tu peux en faire des vraies œuvres. Quoi. Cette BD que tu as évité, tu vois, que tu as dessinée pour éviter de t'endormir au cours de géo, ben voilà, maintenant, c'est un vrai manga. Avec le texte, hein, texte compris, tu peux vraiment lui dire ce que tu veux mettre dans les bulles et tout, ou dans les dessins. T'as un super dessin en noir et blanc, bah, tu peux l'avoir en couleur gratos, tu peux coloriser n'importe quoi. Et c'est vraiment à la diversité des cas d'usage qu'on peut se rendre compte d'à quel point GPT-4o, il est révolutionnaire. Tu peux faire une cover pour un podcast ou une vidéo YouTube en une phrase. Modifier ta tronche à la demande pour faire la grimace classique que tu vois tous les YouTubeurs font des grimaces débiles. Bon ben voilà, ils sont tous en train d'utiliser ça. Tu peux aussi photographier ton salon, ta cuisine, ton garage, et puis tu peux lui demander de virer les meubles, lui uploader des photos de modèles Ikea et lui demander de générer ce que ça donnerait. Pareil pour les travaux de ta maison, ça donnerait quoi, ta maison avec un crépit terracotta, par exemple. Tu vois, tu veux faire un jeu, tu peux demander de gérer les sprites directement, si c'est un truc en 2D, ou des arrière-plans sur plusieurs niveaux, il peut faire des effets de parallaxe, tu peux avoir des vues multiples de ce que tu veux, et même de toi, finalement. Et grâce à ça, tu peux même, avec une autre IA, faire un modèle 3D d'à peu près n'importe quoi. Tu peux envoyer une image et faire bouger les sujets pour créer une page de BD entière. Tu peux isoler un sujet dans une image, rendre le fond transparent, et puis finalement, tu n'as plus qu'à télécharger, et voilà, tu fais tes compositions comme tu veux. Pour la pub, c'est le rêve. N'importe quel produit, tu peux le mettre dans n'importe quelle situation, il suffit que tu envoies le fichier. Et tout ça, c'est gratos. Et tu peux même combiner des vues pour faire des grilles, organiser les images, avoir quasiment une page de magazine prête à publier. Texte compris, hein. En fait, il est même capable de générer des pubs entières, slogans compris, tout seul. Bon, c'est pas forcément génial, mais c'est déjà incroyable. Alors, si tu vends des t-shirts à motifs, bah, tu as une infinité de t-shirts dans ta boutique. Tu vends des fringues, bah, tes clients ils peuvent essayer, ils peuvent envoyer leurs propres photos en pied d'eux-mêmes, et puis bah, ils peuvent essayer directement tes fringues en ligne. Voilà. Et puis évidemment, si tu fabriques des fringues, toi, tu n'auras plus jamais de mannequin, enfin, besoin de mannequin, tu n'as plus besoin d'humain, quoi. Tu peux juste voilà, photographier tes nouvelles créations et puis les mettre sur des gens. On pourrait continuer longtemps comme ça, hein, et ça, c'est à la portée d'absolument n'importe qui en quelques minutes. Et voilà, quelques minutes, c'est principalement l'attente du rendu. Donc oui, il y a des chances que le service continue d'être encombré. Et donc OpenAI va devoir s'équiper. Il vient de faire encore une levée de fonds auprès de SoftBank de 40 milliards de dollars. Peut-être avant l'énorme crise financière qui est en train de se passer. Ça les valorise près de 300 milliards désormais. Enfin, en tout cas, là encore, avant la crise. Ils s'attendent à près de 13 milliards de revenus cette année. Donc ça monte. Hein. En 2029, ils espèrent gagner 4 fois plus et être rentables. Après, les coûts d'exploitation sont très très élevés hein, dans le secteur, et évidemment ils sont proportionnels à l'usage, au nombre d'utilisateurs. Donc à suivre, c'est assez différent d'un simple site web quand même.
C'est assez dingue de voir la capacité de simplicité de l'accès finalement, puisque oui, tu donnes des cas d'usage extrêmement concrets. C'est que je m'étais fait l'exercice, je voulais moi essayer d'envisager pour le bureau dans lequel je suis maintenant, une poste là, j'ai les murs plutôt blancs et je voulais me dire, tiens, est-ce que ce serait pas mieux si demain je fais plus de vidéos avec un environnement avec des grilles, tu vois ? C'est une question que tu te poses rapidement comme ça en passant par la tête, puis bah, t'envoies une photo de toi et dans ton bureau et puis tu lui dis, bah, change-moi le fond, mais du gris. Le résultat, alors certes, il est pertinent pour te donner une idée, mais comme tu le soulignes, je trouve que c'est la simplicité avant tout qui est bluffante et qui est marquante, et c'est en cela quand même qu'OpenAI sont très bons et qu'ils ont été les premiers à mettre à disposition aussi simplement ces outils. On est loin des premiers prompts qui généraient des images approximatives et qui n'étaient pas forcément très convaincantes. Là, on a des résultats qui sont de plus en plus proches des intentions que tu souhaites avoir. Au point, alors je continue moi dans mes expérimentations, je me cache hein, derrière le fait que c'est pour le travail, c'est pour tester. En fait, je prends évidemment énormément de plaisir à faire mumuse avec ce truc en ayant parfaitement conscience des enjeux écologiques et des enjeux d'entraînement sur des données à propriété protégée. Je me suis amusé notamment sur l'environnement franco-belge. Tu sais, j'aime beaucoup Tintin et j'aime bien, je sais qu'il y a des travers dans Tintin, hein, ne me sollicitez pas sur les limites de la vie d'Hergé et des limites de ses valeurs. Je sais tout ça, vous avez raison. J'aime malgré tout bien l'œuvre de Tintin et j'aime bien aussi l'univers Lovecraftien. Et donc, j'aime bien faire des croisements en m'imaginant qu'il aurait pu y avoir des albums de Tintin dans des univers Lovecraftiens. Et on peut voir quelques graphistes qui ont pu faire ces simulations-là par le passé. Mais avec ChatGPT, tu le fais en deux phrases. Tu as des résultats qui sont extrêmement bluffants. Et là où ça me marquait, c'est que je faisais des simulations, donne-moi des couvertures d'albums dans l'univers d'Hergé avec un environnement Lovecraftien, etc. Il me sortait Tintin en couverture, quoi. Et je n'ai pas demandé Tintin, mais évidemment, pour lui, Hergé, franco-belge, dessin, c'est Tintin. Et ça, c'est complètement bluffant. Je voulais juste rajouter deux petits trucs très rapides, Guillaume, sur, encore une fois, l'usage et la simplicité de ChatGPT. Tu as parlé, tu as mentionné la semaine dernière, on l'a vu pas mal fleurir sur Internet, cette capacité à générer des faux reçus, tu sais, des faux tickets qui peuvent servir de justifier des notes de frais pour les entreprises. Et en fait, il m'est arrivé une petite mésaventure perso d'une commande en ligne. J'avais commandé une brosse à dents électrique il n'y a pas très longtemps et j'ai reçu, avec le bon colis de suivi Guillaume, un parfum d'une marque que je ne citerai pas ici. Donc, rien à voir. Je pense que c'est le logisticien qui s'est gouré. En fait, j'ai eu les deux dans deux colis séparés, mais avec le même numéro de suivi. Et donc, j'ai interagi avec le vendeur de ma brosse à dents en lui disant, voilà, j'ai reçu ça, c'est pas à moi, est-ce que vous voulez que je vous le renvoie, etc. Et il demande des photos. Mais en fait, tu te dis, la fraude, le potentiel de fraude, il va bien au-delà de simplement un ticket de caisse usurpé. Les assureurs qui, jusque-là, et il y en a énormément, hein, se basaient sur les témoignages de leurs clients avec des photos dans l'app mobile et qui économisaient sur le fait de ne pas faire venir des experts systématiquement parce qu'ils se disaient On perd finalement plus d'argent à dépêcher un expert à chaque fois et on préfère prendre en charge par exemple des dégâts des eaux dans des logements qui sont assurés simplement sur la bonne foi du client et sur la base de sa photo. Alors, non seulement tu peux faire la facture de l'entrepreneur, tu peux faire aussi ton salon avec un dégât des eaux. Je trouve ça ahurissant et on ne mesure pas encore probablement la portée que ça va avoir sur plein de détails. Et puis enfin, pour terminer, tu parlais de cette simplicité de générer des pubs. C'est vrai aussi pour la vidéo. J'ai vu des personnes qui faisaient des exercices et qui, montre en main, en 5 à 10 minutes, faisaient des pubs TV qui avaient des défauts, mais qui étaient extrêmement convaincantes. Et quand tu sais les temps et les budgets qui sont demandés par des agences de pub pour créer des pubs pour des marques, il y a quelque chose qui se passe. Alors justement, Guillaume, on parle de cette capacité à générer des images et des vidéos. On continue parce que là aussi, hein, ça ne s'arrête pas.
Oui, bah, de toute façon, et d'ailleurs, tu sais, ce cas de fraude que tu as évoqué, ouais. Je l'ai vu passer. J'ai vu passer,
ah,
par exemple,
okay.
J'ai vu, pas exactement, enfin, la même chose, quoi. C'est-à-dire, le mec prend une photo de son colis Amazon, il demande à ChatGPT, c'était une bouteille, hein. il lui dit, rends la bouteille cassée, et puis voilà, il a une photo de son collier avec
la
bouteille cassée, et puis voilà, après, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est clair, hein, il faut le soulever, tu as raison, c'est aussi une source de fraude assez incroyable. En tout cas, GPT-4o, il est formidable, mais la concurrence s'endort pas non plus, hein, et la puissance de sa nouvelle génération d'images peut se combiner avec encore d'autres IA, d'ailleurs, et qui sont d'ailleurs chaque semaine plus puissantes. Et parmi la concurrence, on a Midjourney, quand même le pionnier, hein, un des pionniers, on va dire, qui vient de sortir sa V7, il aura fallu attendre 8 mois quand même, depuis la 6.1. C'est une version solide. Dans l'intervalle, même sans parler de ChatGPT, évidemment, tout comme d'habitude, mais on a eu aussi Flex, qui est en open source même, et on a eu aussi SD3.5, ainsi qu'une foule d'autres, comme Ideogram ou même Frame de Runway. Donc la V7, elle va comprendre beaucoup mieux les prompts, justement. On voit que c'est un enjeu extrêmement important, pour avoir ce qu'on veut. Donc elle va comprendre mieux les prompts, ce que tu demandes, et les relations entre les éléments. Elle va produire des images de meilleure qualité, plus cohérentes, des textures très fines et très détaillées. La V7, par défaut, demande d'ailleurs un profil esthétique. Il te montre des images et tu choisis celle que tu préfères et ça va biaiser les productions vers ce type de rendu-là. Alors, c'est pas obligatoire, hein, tu peux aussi désactiver ce profilage. T'as un mode brouillon qui va 10 fois plus vite et qui est 2 fois moins cher pour l'expérimentation, hein, dont le rendu est déjà pas dégueulasse, hein. Et sinon, le rendu normal, de qualité, quoi, très très bon. Effectivement, on a beaucoup plus de détails sur la peau, par exemple, hein, qui est beaucoup plus réaliste d'une manière générale. Le rendu est assez impressionnant. C'est toujours très stylé, toujours très esthétisant. Le prompt peut devenir nettement plus complexe aussi, hein, si vraiment tu veux des trucs compliqués, ça a l'air de bien tenir, quoi. Évidemment, on n'est pas du tout sur un concurrent de ChatGPT-4o non plus, hein, sur la flexibilité quasi infinie, hein, du truc. Mais pour un générateur standard, qui est quand même, rappelons-le, beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide à générer les images, c'est pas mal du tout, même s'il y a toujours des soucis classiques, hein, comme des visages déformés à l'arrière-plan, surtout quand il y a beaucoup de monde, quand il y a des foules, souvent il y a des imperfections à l'arrière-plan. Pour un générateur d'images modernes, c'est bien, mais c'est un peu court maintenant. Il y a d'autres fonctions qui arriveront un peu plus tard, les références, par exemple, pour intégrer des logos, des objets, des personnages. Le remix aussi. Midjourney, pour le moment, ça reste Midjourney, quoi. Donc c'est très beau, c'est très stylé, ça, le niveau de qualité est très bon, mais ça manque encore pas mal de contrôle. Ça va évoluer sans doute, hein, dans les semaines qui viennent. Et donc finalement, c'est un lancement plutôt partiel pour Midjourney V7, et un peu comme pour Gen 4, hein, de Runway. C'est la bêta perpétuelle, hein, dans ce domaine. Runway aussi a lancé son nouveau générateur vidéo, sans toutes les fonctions aussi. On peut embrayer là-dessus, à moins que tu aies...
Ouais, allons-y sur Runway, ouais. Effectivement. Non, Midjourney, quand même, juste un mot. C'est vrai que quand tu vois ce qui se passe à côté, quand tu vois le temps qui s'est écoulé depuis les annonces de la précédente version, c'est une éternité. On le disait concernant OpenAI, ils n'arrêtent pas d'une semaine sur l'autre. Il y a un nouveau produit, une nouvelle annonce. Et oui, c'est de la communication. Il y a aussi de l'innovation, mais ils sont très présents. Et c'est très difficile de suivre l'actualité de l'IA générative sans parler de ce que sort OpenAI. Midjourney, on les sent un peu plus, pas fébriles, mais ils sont beaucoup moins présents dans l'actualité. Et malheureusement, je pense que dans la guerre de l'IA qui se mène, ne pas être présent toute la semaine, ça devient difficile. Alors Runway non plus n'est pas là toutes les semaines, mais ils arrivent quand même avec du très lourd aussi.
Eh bien oui, ils viennent de sortir Gen 4, qui est censé être beaucoup plus cohérent et plus flexible. Alors, ce nouveau générateur vidéo, hein, bien sûr, c'est le successeur de Gen 3 et de Gen 2. Alors, il est un des plus flexibles du moment, mais enfin, disons qu'il le sera quand il sera complet, lui aussi, puisqu'il proposerait les références pour la vidéo et c'est pas encore disponible. Donc Gen 4, c'est un truc qui part d'une image. Vous ne pouvez pas faire directement du texte ou vidéo, sinon il faut générer une image par ailleurs. Alors Runway le fait directement, puisque désormais ils ont leur propre générateur d'image qui s'appelle Frame. La vidéo générée qui fait dans les 10 secondes à partir d'une image, elle est plutôt cohérente en effet, hein, et la physique est assez convaincante. Pas parfaite, toujours, il y a toujours des énormités, des absurdités de temps en temps, mais c'est beaucoup mieux, quoi. Hein. Les gens qui marchent, ben, ils semblent marcher vraiment par terre, pas sur un tapis roulant, et bon, évidemment, parfois, il y a des petits ratés, des faux pas. C'est quand même un progrès net par rapport à Gen 3, c'est un immense progrès par rapport à Gen 2, en fait. Hein. Si tu compares sur deux générations, c'est assez vertigineux. Gen 4 continue à générer des trucs bizarres, hein, évidemment, quand même, rassurez-vous. C'est globalement moins souvent, et puis bon, les délires oniriques complètement incroyables des débuts, c'est fini quoi. Et pourtant, là, tu peux mettre en scène des rues bandées avec des passants de tous les côtés. Alors, c'est sûr, hein, le sujet principal il reste assez cohérent, et à l'arrière, ben, c'est relativement... Enfin, ça passe si tu fais pas attention aux détails. Si tu t'y attardes, par contre, tu vois des trucs étranges. Mais c'est clair que ça te saute moins à la gueule qu'avant, hein, et puis on peut avoir des vidéos de plein de styles différents, même en noir et blanc. Façon film des années 40, des vidéos avec plein de gens au premier plan qui sont même remarquablement cohérentes, même au premier plan, il peut animer plusieurs visages, plusieurs... C'est remarquablement cohérent, c'est pas parfait, il y a des petites imperfections ici et là, des petits trucs qui disparaissent, mais c'est vraiment pas mal, hein. Donc globalement c'est solide, on a l'impression d'être au niveau de VO2, hein, largement, par exemple, hein, pour prendre un exemple, avec des références, ça pourrait devenir un outil très crédible. Alors, ce que j'appelle les références, c'est vraiment très très puissant, puisque tu donnes des images qui contiennent des objets, des personnages ou des décors que tu veux dans ta vidéo. Donc, tu vois trois images, un bilboquet, une rue crade. Donc, ça fait que deux images, d'ailleurs, mais bon. mais tu peux en envoyer trois. Et puis, dans le prompt, tu dis que tu veux... Donc, tu fais vraiment référence à ces images-là. Tu dis le bilboquet de l'image 1 dans la rue crade de l'image 2, avec des passants qui font leur boulot de passants, quoi, qui passent devant. Et hop, t'as la vidéo. Et ça, tu vois, cette mise en situation directe du truc, ça donne un contrôle assez dingue, quand même, sur ce que tu veux. Et dernier détail intéressant, si tu fais ça dans Frame, alors le générateur d'image donc de Gen 4, est-ce que tu auras plus d'informations, par exemple, tu vois, est-ce que Frame et Gen 4 ont une relation privilégiée, est-ce qu'ils partagent leur représentation mathématique du monde, tu vois, est-ce que Frame passe non seulement l'image, mais aussi le prompt, la représentation du prompt, tu vois, est-ce que c'est pour que ça soit plus riche. Il est possible que Google fasse ça avec ImageGen et VO2, c'est pas encore précisément, mais ça pourrait être intéressant. Et puisqu'on parle de VO2, d'ailleurs, bah, moi, je vous avais envoyé à toi et Steph un court-métrage réalisé par un YouTuber qui fait la chaîne Theoretically Media. Et donc, le making-of de ce court-métrage, je vous l'avais envoyé après, making-of dans lequel il met même des fausses photos de tournage. C'est assez marrant. Le court-métrage s'appelle The Bridge, et c'est un truc qui dure 2 minutes 15, et qui montre une jeune viking qui doit passer un pont. Et il est gardé, ce pont, par une sorte de gros squelette en robe. Et si vous le savez pas, comme ça, en le regardant le truc sur le téléphone, vous devinerez pas que c'est 100% artificiel. La crise parle, hein. Il y a des plans cinématiques, il y a des flashbacks avec papy, il y a une musique dramatique, tout y est. C'est bien fait. Si vous regardez attentivement, il y a des erreurs. Hein. C'est clairement, la hache de Madame Viking, elle a une forme qui est très variable. C'est vraiment, voilà, c'est pas la même, du tout la même selon les plans. On sent les cadrages qui sont un peu cache-misère aussi, parce que tu sens que le mec il a coupé parce que ouais, ça marchait pas bien. Mais bon, franchement, c'est quand même dingue parce qu'il y a un an, c'était pas envisageable. Et pour faire ce court-métrage, il a utilisé plusieurs outils. Il a utilisé VO2 et ImageGen. Il a aussi utilisé Midjourney pour les concept art. La voix de la fille est totalement synthétique. Hein. C'est Eleven Labs qui l'a produite, comme d'ailleurs celle du gros squelette pas beau. Et puis la synchronisation labiale a été faite par Edra. Et en fait, il a envoyé une seule image du plan où elle parle à Edra, parce que Edra, il anime des images, il n'anime pas des vidéos. Et donc, il a fait la synchro labiale avec le son, et c'est donc une limitation évidente, parce que, évidemment, rien d'autre ne va bouger. Donc, vous pouvez avoir une personne qui parle de manière très convaincante, mais par contre, derrière, ça ne va pas bouger. Donc, il faut préférer les fonds neutres quand elle parle, tout ça, faire un peu attention. Et alors, pour avoir toujours le même visage, il a utilisé un hack, on va dire, de VO2, puisqu'il a demandé, en fait, un changement de scène à VO2, en partant toujours la même image. Et comme ça, VO2, en fait, il part toujours du même personnage. Et puis après, quand il imagine l'autre scène, il imagine la même personne dedans. Donc, c'est une petite astuce comme ça. Bon, après, il y a d'autres moyens de générer toujours le même visage avec des Laura ou même plus simplement. Mais bon, en tout cas, le tout a été après upscalé chez Topaz Lab. Et donc là, vous avez à peu près quoi, le workflow complet de comment il a fait. Alors, combien ça coûte tout ça? Parce que c'est quand même des outils en ligne qui ne sont pas gratuits, quoi. Mmh. Et puis, c'est cher, en fait, la génération vidéo de chez VO1. Et il a généré un sacré paquet de rush pour arriver à avoir un truc qui se tient en gros 10 pour 1. Donc il a dit à peu près 375 clips qui ont été générés en comptant tous les crédits sur les divers sites, alors donc Eleven Labs, Udio pour la musique, Edra, Magnifique, etc., on arrive quand même à la somme assez rondelette de 2 000 $ pour dans les 40 heures de boulot. Alors, ça paraît beaucoup. Ben, c'est vrai, pour moi, c'est beaucoup. Mais s'il avait fallu faire un tournage pour ça, ben, avec des acteurs, des caméras, des effets spéciaux, des costumes et tout le bordel,
ben, oui.
On serait sur des budgets rondelets et replets de 100 000 $, quoi, tu vois, potentiellement beaucoup plus. Hein.
Ah, ça va très, très... On se rend difficilement compte des coûts de production dans de l'audiovisuel classique sans IA, ça c'est clair.
Ah oui, oui, mais si tu veux des prods de qualité TV, vraiment, ou cinéma, enfin, la qualité aurait sûrement été bien meilleure, bien entendu. Mais enfin, on est quand même 100 fois moins cher qu'une, quoi, tu vois. Et tout ça, c'est fait par un mec tout seul dans sa cave. Alors, c'est une jolie cave avec des guitares électriques au mur, mais enfin, bon, quand même. Et tout ça avec des outils qui sembleront probablement primitifs dans 1 ou 2 ans. Chaque semaine, on voit de nouveaux papiers sur des nouveaux algos pour la vidéo, pour animer des gens qui parlent. C'est un gros manque des modèles actuels, d'ailleurs. Il n'y a pas de son, les gens ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas leur faire dire des trucs. Là, il a fallu utiliser 2 sites, rien que pour faire parler l'héroïne. Mais tout ça, ce sera probablement intégré bientôt. Il y a un article de Tencent qui présente un modèle qui peut faire parler ou chanter n'importe quel portrait, c'est AC Talker. Il a 10 minutes photo juste avec de l'audio, ou bien alors il calque les mouvements, tu te filmes avec ta webcam, quoi, et donc ça donne une sorte de guide pour les expressions du visage, et tu peux aussi le calquer sur une photo. Qui devient animé. Bon, c'est presque du classique, ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Edra. Hein. Mais Mocha va encore plus loin. Mocha, c'est un générateur vidéo qui est fait pour créer des humains. Donc, il est fait pour créer des personnages qui parlent, avec synchronisation audio-vidéo. Donc, tu le prends avec le texte, tu lui donnes la piste audio de ce que tu veux qu'il dise, et puis Mocha, il s'occupe du reste, il génère un personnage complètement artificiel qui va dire ce que tu lui dis dire, et qui va aussi avoir des expressions faciales et des comportements qui sont en rapport avec les émotions qui sont véhiculées par l'audio. C'est une recherche qui est cofinancée par Meta, d'ailleurs, hein, Mocha, et l'Université de Waterloo. Et donc, on peut envisager demain des générateurs qui soient à la fois audio et vidéo, qui sont cohérents aussi dans les deux modalités jointes. Et pour terminer, on peut aussi évoquer que les générateurs vont bientôt pouvoir générer des courts-métrages tout seuls. J'en veux pour preuve Amazon qui sort Reels 1.1, qui génère des vidéos 720p jusqu'à 2 minutes, avec des plans de 6 secondes, où tu peux décrire avec des prompts très longs, hein, qui font jusqu'à 4000 mots, qui sont les storyboards, quoi, si tu veux, voilà, de ce truc-là. Et de manière quasi simultanée, on a un papier qui a été cofinancé par Nvidia, Stanford et l'USCD, qui génère des dessins animés de Tom et Jerry tout seul. Alors, il est volontairement limité là-dessus, ils ont fait le truc là-dessus, mais bon, évidemment, ça peut être généralisé. Et il fait des dessins animés qui sont complets, quoi. C'est des histoires cohérentes, qui font plus d'une minute, et qui, avec des plans qui font entre 3 et 6 secondes, et ils ont modifié un générateur vidéo existant pour lui rajouter une cohérence sur le long terme. Bon, évidemment, ils l'ont entraîné sur du Tom et Jerry, bien entendu, mais c'est pas suffisant du tout. En fait, ils ont été obligés de faire une opération chirurgicale et de lui greffer une mémoire à long terme, en fait, une mémoire à plus long terme que la mémoire qui est de quelques secondes, en fait, hein, du générateur d'origine. C'est une méthode qui est une piste intéressante, d'ailleurs, pour avoir des IA génératives avec encore plus de mémoire, enfin, des mémoires, disons, à plusieurs échelles, quoi, de temps.
C'est bluffant une nouvelle fois, hein, de voir toutes ces avancées. Je pense quand même que le point central dans la génération vidéo, et on l'observe bien avec cette sélection que tu as faite, c'est la cohérence. Quand on arrivera à avoir des éléments de référence qu'on a bien déterminés, qu'on a bien choisis, bien actés, et qu'après, on saura que les outils seront les animés en cohérence sans les modifier. Tu parlais de Runway et de la capacité qu'il y a à prendre des éléments, à les composer, à les mettre dans des vidéos et à les conserver. Tu parlais de la petite limite, alors avec des gros guillemets, hein, parce que ça n'entache en rien la prouesse du court métrage, mais la limite de la cohérence de la hache dans le court métrage que tu as mis dans les notes de l'épisode. C'est quand même un point central, et on en prend une direction et on est, à mon avis, très très proche. C'est une histoire de moi, hein, pour que ce soit peut-être de l'histoire ancienne, j'ai l'impression. Probablement pas à très long terme, mais à l'échelle des générations de plans, on va très très vite y arriver, et ce sera de l'histoire ancienne que d'avoir des choses qui seront incohérentes, comme peut-être, alors je me lance, hein, je me mouille, comme peut-être l'étaient les mains à 6 doigts, voire plus, il y a de ça encore quelques mois. Alors bon, c'est cool, on s'enthousiasme, hein, et ça fait plaisir de voir les usages et les évolutions possibles. La technique a quand même ça de beau, il faut savoir s'enthousiasmer sur ce qu'elle permet, mais vous le savez, on a aussi notre côté père fouettard dans Tech Café, on aime bien vous rappeler à la réalité, mais en fait, comme les outils et comme la réalité se rappellent à nous sans qu'on ne le lui demande, Il y a une limite hein, technique à tout ça, Guillaume, c'est celle de la disponibilité de l'énergie sans pourrir la planète. Il faut qu'on observe un petit peu les conséquences aussi sur le plan sociétal.
Exactement, et ça, bah oui, toutes ces avancées dans les IA sont tellement excitantes que je ressens le besoin de doucher tout cet enthousiasme voilà, violemment. J'ai pas besoin de forcer beaucoup parce que, en réalité, l'opinion sur les aspects positifs ou négatifs des IA semble extrêmement variable selon les publics. Alors, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes intéressé par la tech, a priori, hein, et que vous y connaissez même un peu, voire très bien, et que vous êtes du coup peut-être plutôt optimiste vis-à-vis de la tech. Bon, je ne sais pas. En tout cas, un sondage américain du Pew Research Center semble montrer qu'entre les experts, entre guillemets, et la population générale, les avis sur l'IA sont pas du tout les mêmes. Alors, par experts, ici, on entend des gens qui travaillent dans le milieu, qui font des recherches en IA, et voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les experts. Et par population générale, bah, c'est juste un échantillon représentatif de la population américaine. Alors, quel pourcentage des experts pensent que l'IA aura un impact global positif sur les 20 prochaines années? 56%. Le problème, c'est que, voilà, d'ailleurs, même, il n'y a que 15% des experts qui pensent que ce sera négatif. Donc là, c'est vraiment positif, mais après, tu sais, il y a toujours neutre ou ne sais pas. Mm-hmm. Donc, il n'y a que 15% des experts qui pensent que ce sera négatif. Donc, vraiment pas beaucoup d'experts. Hein. Pour la population générale, par contre, c'est seulement 17% qui pensent que ça va bien tourner. Il y a 36% qui pensent que ça va mal tourner, il y en a 33% qui pensent que ça va ni bien ni mal, il y a 16% qui n'en savent rien. Alors qu'il n'y a que 6% des experts qui disent qu'ils ne sont pas sûrs et qu'ils n'en savent rien parce que c'est des experts. Alors bon, ils savent, merde, c'est quoi ça? Donc, c'est encore plus criant quand on leur demande s'ils pensent que l'IA sera bénéfique pour eux-mêmes, personnellement. Sans trop de surprise, 76% des pros ben, pensent que oui, mais seulement 24% de la population générale. Les gens pensent même à 43% que ça sera négatif pour eux, et 33% ne sont pas sûrs. Donc les trois quarts des gens sont pas du tout en confiance vis-à-vis de la tech pour améliorer leur vie. 64% des paysans non spécialistes, donc en IA, pensent que ça va détruire des emplois. Seuls 5% pensent que ça va en créer. Les experts sont beaucoup plus partagés. 39% pensent que ça va même en détruire quand même, hein, mais il y a une bonne moitié qui pense que ça va en créer ou ne pas faire de grande différence. Le seul point où les experts et le public sont d'accord, c'est pour ne pas faire confiance au gouvernement pour réguler tout ça comme il faut. Mais bon, je vois pas sur quoi tu pourrais faire confiance à ce gouvernement-là en ce moment, parce qu'on pense quand même, on parle quand même d'Américains, donc les pauvres. Ils sont aussi d'accord pour dire que l'IA, c'est super pour la désinformation, c'est dangereux pour les élections. Pour presque tout le reste, l'écart entre les experts et le public sur le bénéfice des IA pour la médecine, le monde du travail, l'économie et l'environnement est peut-être vraiment massif. On peut être jusqu'à 50 points de différence pour le boulot, par exemple, hein, ou 40 pour la médecine. Démographiquement, c'est remarquable quand même que dans le groupe des experts, les femmes sont beaucoup moins chaudes que les hommes sur les IA. Et c'est aussi assez frappant de voir qu'autant les experts que le public pensent qu'il y aura des biais, que les IA prendront bien mieux en compte les hommes que les femmes, les blancs que les noirs, les asiatiques ou même que les asiatiques ou les hispaniques. Il n'y a que 44% des experts, des mecs qui bossent dedans quand même, hein, qui pensent que les IA prennent en compte les femmes correctement. Il n'y a que 27% pour les blacks et 50% pour les asiatiques. Les gens n'ont pas confiance et c'est pas le dernier rapport de la CNUSED qui va les rassurer. La CNUSED, comme chacun le sait, c'est la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ces braves gens concluent que le secteur de l'IA pourrait atteindre 4 800 milliards de dollars en 2033, affecter 40% des emplois. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu les tarifs de Trump, à mon avis. C'est sorti avant la shitstorm, je pense.
Plus 20% minimum.
Et ouais, c'est ça. Et donc, du coup, moins 80%. Enfin bon, en tout cas, ils disent aussi que ça va probablement accroître considérablement les inégalités de richesse entre les pays. C'est pas très étonnant, hein, vu que 40% de la recherche privée sur le sujet se fait dans moins de 100 entreprises qui sont principalement en Chine et aux US. Presque un job sur deux serait d'ici moins de 10 ans, on va dire, automatisé ou semi-automatisé, avec un transfert de richesse vers l'une de ces boîtes plutôt que dans votre poche, hein, tout simplement. Et parti comme c'est parti, et tout ça, ça va aussi consommer une quantité de calculé d'énergie absolument inimaginable. Je rappelle quand même que GPT-4o, pour me dessiner une chèvre en slip, il prend 2 minutes sur des serveurs absolument énormes. Hein. C'est un truc...
C'est là où je culpabilise un peu, moi, quand je fais mes tests et que je m'amuse de manière très créative. C'est super puissant, mais... à ça derrière.
C'est super puissant, mais c'est aussi super puissant parce que c'est des modèles énormes. Hein. D'ailleurs, ça va leur poser problème à eux aussi, de toute façon. Aussi, hein. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que l'IA va donc détruire notre civilisation? Ben non, parce que ça, c'est le boulot du réchauffement climatique. Et oui, le capitalisme pourrait s'effondrer sur lui-même parce qu'il ne tient pas bien la chaleur. Il pourrait fondre, en gros. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, c'est les assureurs. Il y a Gunther Tellinger, qui travaille chez Allianz, qui affirme que le monde se rapproche d'une sorte de singularité actuarielle, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus couvrir le risque climatique. les katas seront si courantes et si intenses et dans tellement d'endroits que ce sera juste plus rentable d'être assureur, quoi, en gros. Gunther l'assure, hein, si j'ose dire. Sans eux, aucun autre service financier n'est viable. Parce que si t'as pas d'assurance, bah, tu fais plus de prêts, plus d'investissements. Bon, bah voilà, il y a plus d'immobilier. Bon, si les gouvernements doivent payer, parce que qui va couvrir, bah, il faut bien que quelqu'un couvre à un moment. Donc, si les gouvernements doivent payer, bah, ça va être vite vu, hein, parce que chaque cata, c'est des dizaines de milliards de dollars. Il y en a des dizaines, des centaines par an. Maintenant, très vite, ils pourront plus. Il y a déjà des endroits comme la Californie à cause des incendies où pratiquement plus aucun assureur n'a fait de contrat. À partir de 3 degrés, de plus 3 degrés, l'adaptation risque de devenir impossible financièrement parlant. Donc humainement parlant, bien entendu. Hein. Zurich Assurance appelle avec la dernière énergie à faire une transition énergétique et être carbone neutre avant 2050. Et oui, c'est fou. Une énorme compagnie d'assurance suisse nous supplie de faire une révolution verte pour éviter l'apocalypse financière. Ça, c'est terrifiant, vraiment. Si ça vous terrifie pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
C'est effectivement une mise en face des réalités qui est évidente. Les banques assureurs, il n'y a pas un seul financeur de l'immobilier, pas un seul assureur qui n'a pas anticipé des plans. Et les projections sont systématiquement les mêmes. Elles amènent au fait qu'il y aura un problème bloquant dans la façon dont on fonctionne. Et désormais, on est à peu près tous convaincus que il n'y a pas de solution miracle, finalement. Hein. Il n'y a pas de solution autre que changer la manière dont le paradigme avec lequel on consomme aujourd'hui et dont on utilise les énergies fossiles. Ça paraît hautement incompatible avec la tendance qu'on suit là à court terme et les projections qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle telle que tu le listais juste avant. Et ça peut refroidir de nombreuses ardeurs. La seule question, c'est quand. Et en fait, c'est la seule raison pour laquelle les choses n'avancent pas plus que ça, c'est que c'est pas suffisamment proche pour qu'on se le prenne en pleine gueule. Sauf qu'effectivement, là, comme tu le dis, le fait d'avoir des assureurs qui nous supplient de faire quelque chose devrait déjà être un signe d'alerte. C'est le premier, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Mais c'est dur, hein, ça nous met quand même dans des dilemmes de dingue, Guillaume, parce que ce soit pour jouer à des jeux vidéo, que ce soit pour utiliser des IA, que ce soit pour beaucoup de choses, finalement, on est tous acteurs de cette consommation énergétique démesurée.
Nous aussi, on est un podcast tech et notre existence, elle...
Absolument.
Nous existons parce que la tech avance extrêmement vite, qu'il y a toujours des nouveaux produits, que ce soit des logiciels ou que ce soit du matériel. Et c'est ça qui fait qu'on existe, parce que s'il y avait une news tous les mois, on ne ferait pas un podcast. C'est parce qu'il y en a des cartons entiers tous les jours qu'on est là, quoi.
Et en plus, je vais même aller un cran plus loin que ce que tu abordes, c'est que finalement, on a même quelque part une responsabilité d'influence que je ne sous-estime jamais, même si elle est à un petit niveau comparé à des gros cartons d'audience comme des chaînes YouTube, etc. Mais à chaque fois qu'on parle de ces outils, je sais bien que ça attise l'envie de tout un chacun de les utiliser, de les tester, d'aller explorer. Et on est quelque part parti du problème. Donc cette espèce de schizophrénie est extrêmement dérangeante. La meilleure manière de la vivre, c'est de l'affirmer haut et fort qu'on est des schizophrènes et d'essayer de tendre,
et de continuer. Faire du mieux.
Et de continuer, voilà. C'est un vrai schizophrène, il ne va pas s'arrêter comme ça. Allez, c'est difficile. On parle un petit peu aussi tendance des usages sociétals et puis un petit peu d'un aspect marketing avec OpenAI et Anthropic qui ont un nouveau levier de croissance dans leur volonté de conquête commerciale dans le monde, de licence pour utiliser leurs IA. A priori, c'est un segment qui n'était pas suffisamment adressé, c'est ça, Guillaume, pour l'instant?
OpenAI a adopté la méthode McDonald's, tu vois, c'est-à-dire cibler les plus vulnérables, les jeunes, voilà, en leur offrant des Happy Meal pour les accoutumer aux produits et les rendre accros selon une dépendance affective qui les poursuivra toute leur vie, comme les problèmes cardiovasculaires aussi. Dès le mois de mai 2024, d'ailleurs, OpenAI avait lancé une version éducation de son chatbot, à destination de ses chères petites têtes blondes des universités. Le mois dernier, ils lançaient le Next Gen AI Consortium avec 15 facs. Ils étaient déjà présents sur tous les campus de Californie, de California State University, donc de l'Université d'État de Californie. Ils ont annoncé la semaine dernière que ChatGPT Plus serait gratuit pour tout étudiant nord-américain, donc US et Canada. Comme je regrette de plus être jeune, hein. C'est arrivé si vite. Un jour, tu payes le train deux fois moins cher que tout le monde, et puis le lendemain, le lycéen te cède sa place dans le bus. C'est perturbant. Mais c'est confortable. Bref, ChatGPT est de toute façon un énorme carton parmi cette nouvelle génération qui n'a pas le goût de l'effort, ma pauvre dame, à tout se perdre. En tout cas, on leur donner un abo gratuit, c'est sans doute la meilleure manière de fidéliser la clientèle. Hein. Ça marche probablement pas trop mal. Et du coup, Anthropic se dit que ça serait sans doute une bonne idée de faire un peu la même chose. Et donc, le lendemain de cette annonce choc, de la dernière annonce d'OpenAI, ils vont proposer Cloud Education, un partenariat avec des facs à Londres et dans le Vermont. Cloud Education aura une option supplémentaire qui est super pas sexy, c'est le Learning Mode. Parce que là, Cloud devient Cloud Educator. Tu sais, c'est plus Terminator, c'est Educator. C'est un chatbot qui répond à tes questions, mais qui... Enfin, en fait, non, il répond pas à tes questions. C'est ça le truc, c'est un chatbot qui répond pas à tes questions. Il t'aide à y répondre toi-même, à la manière de Socrate, qu'on salue au passage. Une manière de réconcilier l'IA et l'éducation, peut-être, je sais pas, la méthode socratique, peut-être que ça marche mieux. Notez bien qu'on peut aussi prompter ChatGPT pour qu'il fasse la même chose, hein, mais ça, d'ailleurs, ça serait vraiment intéressant de mesurer à terme à quel point cette approche est efficace par rapport à d'autres, quoi. On verra ça probablement dans l'avenir.
J'ai un thermomètre de la jeunesse, tu sais, j'ai même deux thermomètres de la jeunesse à la maison, Guillaume, qui sont évidemment pas du tout représentatifs de la population. Je suis encore marqué, je crains hein, que ça puisse changer à l'avenir, mais j'ai un ado de 13 ans qui a une consommation numérique exacerbée, que j'essaye malgré tout de contenir et de rationaliser, mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'elle est exacerbée. Et l'IA est totalement absente. Enfin, en tout cas... Elle est peut-être présente, tu vois, dans les usages en coulisses, comme ça peut être le cas de beaucoup d'intelligence artificielle qu'on a depuis longtemps, par exemple, dans nos smartphones. Mais l'IA générative sous la forme des chatbots interactifs, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, si ça se trouve, dans 3 mois, je vais te dire, Guillaume, c'est fini, il arrête pas d'abuser avec ce genre de trucs, etc. Mais je suis marqué de voir que les jeunes, tu sais, comme on les désigne, les jeunes, avec des guillemets autour de moi, restent encore hyper intéressés par le sport, par le fait de se marrer, par le fait de discuter avec des SMS. Ça me rassure, tu peux pas savoir. Mais ce que je crains, c'est que ça puisse changer à l'avenir. Mais bon. Allez, un dernier mot quand même sur les chatbots qui veulent décidément tout savoir et en plus ne rien payer. C'est quoi ? C'est des voleurs de la connaissance, c'est ça, Guillaume ?
Ben oui, parce que pour pouvoir aider les étudiants, il faut de la donnée. Hein, et les robots d'un petit peu tout le monde continuent d'aspirer le web avec gloutonnerie, parfois même au détriment des vrais humains qui consomment de l'info, parce qu'il en reste hein, quelques-uns. Alors, il y a Wikimedia, par exemple, qui a eu un accroissement de 50% de son trafic, ça devient problématique. C'est quand même une association à but non lucratif, hein, Wikimedia, ils n'ont pas énormément de moyens. Puis pour couronner le tout, les requêtes des bots sont les plus coûteuses. En fait, 65% des requêtes les plus coûteuses sont faites par des bots qui ne constituent que 35% du trafic total. Alors, qu'est-ce qu'on entend par coûteuse ? Bah, les bots, ils vont consulter les pages, mais pas comme nous. Ils vont consulter les pages de manière très, très systématique. Ils vont les consulter donc dans un ordre qui est improbable, et puis ils vont aussi tomber sur plein de pages niches qui sont très, très peu consultées en général. Et bah, du coup, ils vont casser complètement les mécanismes de mise en cache. Les CDN hein, peuvent mettre en cache les pages les plus fréquemment consultées, et puis bah, à chaque fois, ça économise énormément d'appels aux serveurs Wikimedia eux-mêmes. Les bots font pas ça, et donc ils accentuent de manière disproportionnée leur charge. Alors, il y a des contre-mesures, on avait parlé de Cloudflare hein, qui proposait des labyrinthes pour perdre les bots. Mais bon, voilà, les bots eux-mêmes commencent à devenir vicieux. Il arrive déjà qu'ils se fassent passer pour des humains, qui s'identifient comme un navigateur Firefox ou un autre, et puis ils font aussi même parfois tourner leurs adresses IP sur plusieurs zones résidentielles, ce qui complique toujours plus la vie des ingénieurs, hein, qui sont d'ailleurs pas si nombreux chez Wikimedia. Et pendant ce temps, bah, OpenAI est toujours en conflit ouvert avec le New York Times. Alors, les juges ont d'ailleurs permis à la plupart des plaintes du journal de poursuivre. OpenAI poussait pour les faire classer sans suite. Bon, de fait, il devient de plus en plus probable, voire indubitable, que ChatGPT ait lu beaucoup plus de bouquins que Tatata abonné à France Loisirs. Vous me direz qu'à la différence de Tata, on n'a pas accès aux piles de livres dans le placard. Alors comment on peut prouver ça ? Eh ben, c'est délicat, mais on a des méthodes qui donnent des indices très convaincants. On peut en évoquer brièvement deux. Il y a l'éditeur O'Reilly qui a utilisé une méthode qui s'appelle DICOP pour prouver que GPT-4 a très certainement été entraîné sur ces bouquins. Alors la méthode DICOP, elle est assez simple en fait. Hein. Vous faites passer un QCM au modèle. On va prendre un passage d'un bouquin connu, on va le reformuler 4 ou 5 fois, et puis on va demander au modèle de distinguer le passage qui appartient effectivement au texte. Enfin, au livre, quoi. On peut aussi prendre un petit passage d'un bouquin, lui donner 4 suites possibles, dont une seule est la vraie suite. Et après, bah, tu fais des tests plein de fois, et puis statistiquement, on regarde si le modèle choisit bon suffisamment souvent. C'est statistique, hein, mais tu ne peux pas faire trop autrement. Si un modèle sait reconnaître la vraie suite d'un passage du Seigneur des Anneaux 80% du temps, bah, c'est quand même très suspect, quoi. Autre méthode, très récente, hein, qui utilise la notion de surprise. Donc on prend un passage de texte issu d'un bouquin, sous copyright, puis on amasse certains mots qui sont surprenants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas super probables en général. Donc un exemple simple, bah, c'est le nom de personnage. Surtout des noms accouchés sur le paillasson comme Melkor ou Gothmog. Bon ben voilà, si un modèle arrive à reconstruire le texte en mettant Melkor et Gothmog aux bons endroits, c'est sans doute qu'il a mémorisé quoi, tu vois. Donc il a mémorisé le Silmarillion ou un truc comme ça. Donc on utilise des mots finalement comme centre de statistiques, donc on en met plein, hein, et voilà. Donc, il n'est pas encore clair comment ce genre d'indice serait considéré lors d'un procès, par exemple. Est-ce que ce serait recevable comme preuve? Est-ce que ça serait juste des indices? Je ne sais pas exactement. En tout cas, tous les acteurs de la tech ou presque absorbent énormément de choses, hein, et ils risquent d'en sortir, par contre, de leur côté, beaucoup moins, puisque DeepMind, par exemple, va retarder ses publications si elles contiennent des choses qui pourraient leur donner un avantage concurrentiel. Enfin, qui pourraient donner un avantage concurrentiel, donc, à ceux qui les lisent, c'est-à-dire aux concurrents, quoi. Chaque proposition de papier va devoir passer par un processus plus long et exigeant avant de voir la lumière du jour. Hein. Et bon, si ça peut se comprendre d'un point de vue comme purement commercial, c'est aussi quand même un gros point noir pour les scientifiques, parce qu'ils doivent publier un maximum. Et donc, ça irait même plus loin. Hein. Google ferait signer des clauses de non-concurrence qui, parfois, l'amènent à payer des chercheurs pendant un an pour ne rien faire, tout simplement. DeepMind préfère payer quelqu'un de rien faire plutôt qu'il aille chez la concurrence. Alors que c'est dommage, parce que DeepMind, historiquement, était plutôt productif. Hein. Il pourrait commencer à se refermer, ce qui est quand même assez cocasse, parce que OpenAI vient juste d'annoncer qu'ils vont sortir un modèle open source dans les mois qui viennent. Le premier depuis GPT-2, c'était en 2019, donc au Néolithique.
Alors, est-ce que quand tu dis open source, c'est du open source à la Llama de Meta?
Très probablement.
On va pouvoir en retoucher un petit mot. Juste une question sur ces robots qui viennent capter la donnée sur les sites web. Je voudrais attirer l'attention des personnes qui nous écoutent sur cet enjeu hyper intéressant. Au fond, c'est la remise en question du principe même, comme tu le dis, du cache et des CNS. On a appris que les services en ligne avaient tout intérêt à mettre en tampon quelque part les contenus qui sont le plus fréquemment consultés par les gens, pour que ça t'économise un petit peu de ressources, cette bande passante. Super. Et cette nouvelle appropriation par les chatbots de la consommation d'Internet fait que ça bouleverse ce qui était déjà en place. Et Wikipédia, on ne le dit pas assez, mais c'est au-delà des pages web. C'est vrai, quand on dit Wikipédia, on parle de pages avec des contenus de texte, mais c'est aussi l'hébergement de Wikimedia, derrière lesquels il y a beaucoup d'images et beaucoup de vidéos. Et bah là, il y a des afflux de données qui partent et auxquelles Wikipédia n'était pas habitué. La progression est carrément dantesque depuis janvier 2024, quand même. Il n'y avait pas quand même, Guillaume, une histoire de texte qu'on pouvait mettre dans l'hébergement d'un site web pour désigner comme règle au robot le fait de ne pas indexer le contenu pour les IA. Est-ce que...
Oui, bien sûr, mais tout le monde s'en fout.
On est d'accord qu'ils s'en foutent et que techniquement, ils vont au-delà de cette limitation avec des gros guillemets, hein, légales, et qu'ils prennent le contenu parce qu'il est là.
C'est pas légal, en fait. C'est-à-dire, c'est pas une obligation. C'est-à-dire,
C'était de la déontologie.
La netiquette voudrait que tu ne le fasses pas si on ne t'autorise pas à le faire, mais dans pratique, on s'en fout.
Allez, on continue avec Llama, puisqu'on dit effectivement les modèles open source. Ah ah, un des premiers mots qui vous vient peut-être en tête, c'est Llama. Bon, on va pouvoir peut-être revenir sur cette notion d'open source. Mais en tout cas, il y a Meta qui sort Llama 4.
Et oui, ils sont un nouveau troupeau de Llama. Voilà, c'est des modèles open weight, comme tu le disais. Alors, ils sont trois, dont un n'est pas fini ni disponible d'ailleurs. Et la question que vous vous posez tous, bien sûr, c'est voilà, c'est Llama à l'œil pétillant. Ont-ils en fait atteint le niveau d'intelligence humain qu'ils ont l'air d'avoir? Regarde, ils ont l'air tellement intelligents, ces petits animaux. Ben, ça dépend beaucoup des humains, en fait, je dirais quand même. Hein. Alors, je ne les ai pas testés parce que c'est interdit. Voilà. Je ne suis pas censé les tester parce que la distribution du modèle n'est pas autorisée en Union européenne. Et ce, sans exception, même pour un usage personnel. Alors, attention, si vous utilisez un Llama 4 en tant qu'utilisateur final via un service web, bon, c'est bon, hein, on ne va pas vous embêter. Par contre, vous ne pouvez pas le mettre en œuvre, vous, en théorie. Alors bien sûr, personne n'en a
rien à foutre.
Ah bah, de toute façon, personne n'en a rien à foutre. Et moi-même, dès que j'aurai le temps, c'est-à-dire pas avant moins de 2 semaines, j'essaierai de le faire tourner. Ouais. Cela dit, cette position officielle est quand même troublante. Parce que pourquoi? Il y a un problème avec la législation de l'IA sur l'Europe. Ça paraît bizarre, parce qu'on vient quand même d'avoir Gemma 3, qui est un très bon cru, hein, de chez Google. On a les modèles d'Alibaba, on a DeepSeek, on a les modèles de Mistral, et ça, sans aucun problème. Donc on peut quand même s'interroger. Pourquoi? À moins qu'il ne s'agisse d'un souci plus large entre Meta et l'Europe. Une petite histoire d'amende ou de législation, oh, tout ça.
Tu penses?
Je n'oserais pas. Du reste, les conditions d'utilisation des Llama 4 sont de façon restrictive. Hein. Il faut une attribution, vous devez utiliser le nom Llama, et bien sûr, si vous faites plus que d'un certain chiffre d'affaires, il faudra une autorisation de Meta pour l'utiliser, qu'il sera libre de vous refuser, évidemment. Bon, donc c'est un peu open, mais pas trop non plus, quand même. Hein. D'ailleurs, Meta se vante par ailleurs d'avoir pondu un modèle moins biaisé, moins gauchiste, hein, voilà, on va dire ça. Parce que bon, voilà, faudra pas froisser Donald, on a besoin de lui pour faire son ouin-ouin contre l'Europe, hein. Il est déjà en train de chouiner apparemment. Je parle de Zuckerberg, évidemment. De toute façon, vous n'avez pas forcément envie de les utiliser, ces deux modèles qui s'appellent Scout et Maverick. Et oui, comme dans Top Gun, la principale raison, c'est leur structure. Ce sont des mélanges d'experts, comme DeepSeek V3 du reste, Et ils ont d'ailleurs les avantages, les inconvénients de cette architecture. Donc, c'est une architecture où seule une fraction des neurones est activée à chaque mot. Alors, du coup, c'est moins de calcul. Et ça, c'est très cool. Mais le problème, c'est que ce sont des modèles énormes qui font 100 et 400 milliards de paramètres et qui donc sont très peu pratiques à faire tourner chez soi. Même une version compressée de Scout, hein, le plus petit, il demande facilement 64 gigaoctets de mémoire. Pour Maverick, c'est 250 à 300 gigas. Et donc, c'est quasi certain que vous ne pourrez pas faire tourner ça, ou alors sur un CPU d'un PC que vous avez bourré de DIM. Et alors, ça peut aussi être vu comme un avantage, parce que la RAM, c'est pas très cher. Hein, si vous le faites tourner sur un CPU avec de la DDR5 et un bon processeur moderne, vous pouvez vous en tirer, vous pouvez faire tourner Scout, hein, mais ce sera pas très rapide. Et bon, même si c'est envisageable, et puis d'ailleurs, pour Maverick, ça sera très compliqué. Et est-ce que ces modèles valent le coup? Ça, c'est mitigé. Déjà, il existe au moins deux variantes des Llama 4. Il y en a une qui truste les premières places sur la LM Arena et qui était très appétissante, mais le problème, c'est qu'elle a été spécifiquement entraînée pour plaire aux gens en conversation. Et celle qu'on peut télécharger, c'est pas la même. Et d'ailleurs, Meta a admis cette tricherie, oserais-je dire. Les résultats des tests classiques sont dévoilés par Meta. Alors, déjà, on ne sait pas sur laquelle c'est, du coup. Mais bon, de toute façon, ces résultats, ils sont pas mauvais, mais ils vont pas non plus te faire sauter au plafond. Parce que si on devait résumer, le petit, donc la Llama 4 Scout, qui fait quand même 100 milliards de paramètres, hein, je le rappelle, il est globalement au niveau de Gemma 3 27B. Il faut passer à Maverick pour avoir des performances nettement au-dessus, et qui sont d'ailleurs un petit peu en dessous quand même de DeepSeek V3, sachant que les Llama 4 ne réfléchissent pas. Et donc, ils se font souvent dominer en fait, par les modèles qui réfléchissent, et même les modèles relativement petits, comme Quick 32B. Sur le test de Hyder, donc c'est un test pour faire du codage, hein, donc est-ce qu'il est bon en code? Le problème, c'est qu'il n'est pas si bon que ça, en fait, en code. Même Coencoder 32 bits est au niveau de Maverick, ce qui n'est pas vraiment génial. Hein. Attention, dans l'absolu, c'est pas si mal, si tu y réfléchis vraiment, parce que les Llama 4, ils font aussi bien que la concurrence, avec 37 à 47% de calcul en moins. Parce qu'en fait, ils activent que 17 milliards de paramètres. Donc,
ils sont plus économes à l'inférence, alors.
Ils ont beau être énormes, et donc demander énormément de mémoire, ils activent que très peu de neurones. Et donc, c'est pas mal, parce que finalement, ils utilisent moins de calculs pour faire à peu près la même chose. Le problème, c'est qu'il faut quand même les caser, quoi. Ils nécessitent entre 4 et 12 fois plus de mémoire que les modèles avec lesquels ils sont compétitifs. Oui. Et donc, c'est un problème pour les particuliers ou les petites entreprises. Enfin, en tout cas, voilà. Si on compare Maverick à DeepSeek V3, qui est aussi un MOE, c'est pas brillant, quand même, hein, vraiment, sur le code. V3 est quand même 50% plus gros, mais il est très, très, très largement meilleur. Et il y a aussi une version géante de la Llama 4 qui s'appelle le Behemoth. Et il est censé être meilleur que GPT-4.5, tout ça. C'est vraiment un gros, gros modèle. Il ne le compare pas à DeepSeek V3. Et c'est très dommage, c'est parce que ça aurait pu être intéressant, parce que ce sont tous les deux de grands MOE. Alors, par contre, ce serait intéressant aussi parce que DeepSeek V3, il est dans les 600 milliards de paramètres. Et de l'autre côté, Behemoth, il en a 2000 milliards quand même. Hein. Donc, on aurait bien aimé savoir à quel point c'est utile d'être trois fois plus gros quand même. Hein,
ouais,
c'est le cas ou pas.
Ça aurait été pas mal.
Autre truc remarquable sur le papier, quand même, sur le papier, c'est la main ont une mémoire d'éléphant, 10 millions de tokens, autant dire que c'est
ça,
illimité.
C'est, important,
hein.
C'est
illimité que par votre quantité d'armes, en fait, hein, c'est pas illimité. Malheureusement, là encore, les tests indépendants sont mauvais. Donc, il y a une grosse mémoire, mais il n'a pas une bonne mémoire. Pour le moment, la sortie de la Llama 4 est donc pas fantastique. C'est des modèles qui ne sont pas incroyablement impressionnants, enfin, en tout cas, qui ne sont pas très pratiques. Voire carrément inaccessible à la plupart du grand public. Ils sont quand même ultimodo, hein, je n'avais pas oublié de le dire, ils peuvent interpréter même plusieurs images à la fois. Donc, c'est pas mal, mais si tu veux, entre le fait qu'ils ne sont pas pratiques à utiliser, que les Européens en sont privés, tu dis, c'est pas grave, hein, parce que les modèles Mistral et Gemma 3 suffisent, ils sont très très loin d'être obsolètes, quoi.
Qu'est-ce que tu entends par une grande mémoire, mais pas une bonne mémoire? Ça veut dire qu'il se souvient de trucs d'il y a longtemps, enfin, du début d'une interaction, mais il peut perdre la substance de cette information.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on fait souvent des tests pour on leur donne des gros, gros, gros volumes de texte. Après, on leur pose des questions sur ce texte. Et donc, évidemment, si les modèles ont une petite mémoire, vous pouvez juste pas les mettre, pas mettre ce gros volume de texte. Et s'ils ont une très grosse mémoire, vous pouvez la caser. Mais après, il peut se souvenir plus ou moins bien de ce qui a été dit il y a très très longtemps, quoi. Et c'est le cas là. C'est-à-dire que oui, effectivement, il peut se souvenir de trucs qui ont été dits, quatre bouquins avant. Mais il peut aussi pas du tout s'en souvenir. En fait, il oublie énormément de choses apparemment. Et il n'est pas très très fiable de ce point de vue-là.
C'est pas génial pour une mémoire quand même.
Un dernier mot. Il est un peu comme moi, quoi. Ouais,
ouais, comme moi aussi, hein, ça c'est clair. Un dernier mot pour Meta, qui a mis à dispo, vous l'avez peut-être vu plus spécifiquement en France, Meta AI sur, si je dis pas de bêtises, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook probablement. Et donc, c'est disponible maintenant en France. J'ai testé un petit peu. C'est pas ouf hein, quand même, les interactions qu'il y a avec cet outil, qui permet pas finalement de faire grand-chose de très pertinent, je trouve. Je vous ai mis en lien dans les notes de l'épisode un article qui vous dit comment désactiver Meta AI sur vos apps. En fait, c'est très simple. Hein. Il suffit de pas l'utiliser et de supprimer les conversations et surtout de pas le rappeler. Et comme ça, il disparaîtra. Vous en faites pas. Avant de poursuivre l'épisode, je vais prendre un petit moment pour vous dire et vous rappeler que Tech Café, c'est un podcast qui existe, certes, grâce à la tech, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi grâce à vous, qui êtes des auditeurs réguliers, fidèles, passionnés par la tech, que vous soyez des pros du secteur ou juste des curieux pour mieux comprendre le monde numérique qui nous entoure, dans lequel on évolue au quotidien tous ensemble. L'objectif, c'est toujours le même, vous proposer une info tech avec une veille accessible et surtout agréable à écouter. Comme vous le savez peut-être déjà, de mon côté, j'ai fait le choix de quitter mon job traditionnel depuis la fin de l'année dernière pour me consacrer entièrement à la création de contenu. Et donc, ça veut dire que désormais, ce podcast est jusqu'à l'arrivée peut-être de futurs podcasts ou de réanimation d'anciens podcasts, ma principale activité et source de revenus, et ça n'aurait pas été possible sans les accompagnements sur Patreon de vous, précieux abonnés. Et aujourd'hui, j'ai encore et toujours besoin de vous, parce que si Tech Café vous apporte de la valeur, s'il fait partie de votre quotidien, peut-être pendant vos trajets, vos séances de sport, ou simplement en fond pendant vos activités, je vous invite à soutenir cette aventure en vous abonnant sur patreon.com/techcafé. Vous recevrez immédiatement des avantages, parmi lesquels le flux privé du podcast sans aucune pub, directement disponible dans votre app préférée. Et puis, vous aurez aussi accès à des contenus exclusifs, notamment des éditos personnels, des infos coulisses. Alors, me concernant et n'ayant pas plus d'informations sur la vie privée et ô combien secrète de Guillaume Poggiaspala. Par contre, il y a une petite contrepartie, c'est que vous pourrez échanger avec ChatGPP, qui est lui l'alter ego numérique de Guillaume Poggiaspala. Imaginez un ChatGPT avec l'esprit de Guillaume Poggiaspala et ses connaissances. C'est à partir de 6 € par mois, vous pouvez contribuer activement à la pérennité de ce podcast que vous appréciez, je l'espère, beaucoup. En optant en plus pour l'abonnement annuel, vous bénéficiez d'une réduction de 10%. C'est un bon moyen de économiser tout en soutenant Tech Café sur le long terme. Et je termine en rappelant que chaque abonnement compte, chaque abonné fait une réelle différence. Donc, remettez pas plus tard cette petite action qui peut tout changer. Prenez votre téléphone là que vous avez entre les mains ou vous ouvrez un navigateur sur votre ordinateur. Vous allez sur patreon.com/techcafé. Le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Et puis, vous pouvez vous abonner pour continuer à vous accompagner le plus longtemps possible. Un immense merci pour votre confiance, votre fidélité et surtout pour votre soutien. On continue dans cet épisode pour les auditeurs et les auditrices moins jeunes et pour nous, Guillaume, qui sommes désormais vieux parce qu'on l'a vu, on l'a vu grandir et désormais, il commence à arriver à sélectionner la liste déroulante senior dans les questionnaires de profil, c'est Microsoft.
Et oui, typiquement une news que je savais pas vous foutre, hein, parce qu'il y a un petit peu d'IA dedans, un peu de politique, mais il y a surtout c'est beaucoup vrai. De nostalgie. Parce que Microsoft a 50 ans pile, ça vous fiche un coup. Bill Gates aussi, rassurez-vous. Il a 69 ans, lui, et puis ça lui paraît être presque hier qu'il a fondé sa société avec Paul Allen sur la base d'une quasi-arnaque, puisqu'ils ont contacté Ed Roberts, fondateur de MIT, qui produisait l'Altair 8800, en lui disant qu'ils avaient un basique pour sa machine, ce qui n'était pas vrai, ils avaient que dalle. Mais bon, fake it till you make it, en 1975 déjà, donc Roberts
déjà,
aura
il y
acheté,
avait les prémices, quand même.
Écoute, il aura acheté un produit qui n'existait pas, et après, ils ont dû cravacher jour et nuit pour programmer ce qu'ils avaient dit qu'ils avaient, donc un interpréteur basique pour ce qui était un des premiers ordinateurs personnels du monde. Ils ont fondé une société pour ça qui s'appelait Microsoft, avec un tiret. Gates a plutôt bien réussi là-dessus. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Source Code, sur les débuts. Et pour l'anniversaire de Microsoft, il vous fait un cadeau. Il vous donne le code source du basique Altair, qui prend la forme d'un fichier PDF. Alors, c'est un listing sur du papier perforé.
C'est numérisé, c'est génial.
Il est très très bien numérisé. C'est de l'assembleur 8080. Le code est très commenté. C'est un monument historique. 5000 lignes à peine, ça se lit comme un roman. La première démo de Paul Allen, d'ailleurs, au client, a été homérique, vraiment. Microsoft, c'est un peu spécial. Il était un petit peu spécialisé dans les langages de programmation au début, parce qu'il a fait un compilateur Fortran, un compilateur Cobol. Le vrai décollage, ça a été le coup de bol incroyable de l'IBM PC, puisqu'IBM ne s'avait pas choisi au début, parce qu'il voulait CPM pour les machines, mais bon, on va pas se lancer là-dedans. C'est vertigineux hein, de se dire qu'une boîte créée pour lancer un basique sur une machine qui, même à l'époque, était confidentielle, est devenue, 50 ans plus tard, une multinationale qui passe 3 000 milliards de dollars, un peu moins depuis quelques jours d'ailleurs.
Oui.
Ce 50e anniversaire a été aussi fêté en interne. D'ailleurs, il y a eu des événements un petit peu partout, dans les divers départements. Et puis, il a été interrompu. D'ailleurs, ces trucs ont été interrompus par des militants, d'ailleurs, de défense de la Palestine. Mmh. Il y a une femme qui a traité Mustafa Soleiman, le boss de l'IA chez Microsoft, de profiteur de guerre. C'est une employée hein, comme ingénieur chez Microsoft depuis 3 ans et demi. Et puis, elle condamne avec ses partisans les liens entre Microsoft et le gouvernement israélien. Surtout l'armée israélienne, hein, qu'elle affirme que depuis la guerre de Gaza, hein, depuis qu'elle a commencé, les soutiens aux Palestiniens sont systématiquement muselés dans l'entreprise. Et quand elle est arrivée au département hier, en fait, elle a constaté que Microsoft et le ministère de la Défense israélien avaient un contrat de 133 millions de dollars. L'armée israélienne utilise Azure et les outils Microsoft hein, pour la surveillance et plein d'autres usages militaires. Donc la fête a pris une tournure plus politique, quoi. Surtout qu'il y a une autre employée plus tard qui a carrément interpellé Gates, Balmer et Nadella sur le même sujet. Et bon, les employés ont été renvoyés. Hein, Mais bon, voilà, donc c'est assez fou de voir le chemin parcouru en 50 ans. Quoi.
Je suis toujours gêné sur ce dernier point quand une entreprise aussi énorme que Microsoft, enfin c'est gigantesque, c'est difficile finalement d'espérer qu'il soit tout blanc, parce que la vie n'est pas tout blanc. Et ça me paraît compliqué, tu vois, de leur reprocher. Enfin, c'est hyper glissant ce que je dis, parce que ça amène à prendre position sur les sujets de fond, et évidemment, on ne va pas le faire. Mais par contre, c'est compliqué, je trouve, et c'est difficile à suivre d'avoir une action comme ça sur un événement visible. Et je ne suis pas sûr que ça serve la cause de fond. Mais bon, écoute, je peux comprendre qu'il y avait l'énergie de vouloir faire changer les choses là où il y a eu le désespoir que ça n'arrive pas. Elle a pris la parole, hein, l'employée, elle a pas mal expliqué la genèse de son action. Voilà, il faut composer avec ça aussi. Alors, tu le disais, on va en reparler juste après, puisque tu faisais un sous-entendu de Microsoft qui pèse un peu moins lourd depuis quelques jours. On va revenir sur le pourquoi du comment, et je sais que vous savez vous-même pourquoi. Mais juste avant qu'on parle de ce sujet hautement politique aux États-Unis, il faut qu'on touche un petit mot parce qu'il y avait une échéance qui arrivait là. On l'attendait tous avec impatience. Enfin, après avoir été repoussé, c'était la vente de TikTok. Il faut qu'on sache, nom de Dieu, il faut qu'on sache qui va racheter TikTok. Alors ça y est, on a l'info, Guillaume, c'est qui?
Évidemment, parce que la deadline, alors, c'était le 5 avril. Et tu sais ce qui s'est passé?
J'attends, moi.
Tu sais ce qui s'est passé? Que dalle.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bon.
Que dalle, évidemment. Trump a remis une couche de délai de 75 jours, ce qui, d'ailleurs, aboutira probablement à que dalle non plus. Je suis épuisé par cette histoire. Depuis le sursis du 20 janvier, on avait pourtant eu pas mal de candidats à se présenter pour racheter TikTok, enfin sa branche américaine. On avait Oracle, on avait Microsoft, on avait même Amazon dernièrement, on avait Perplexity pour le fun, on avait aussi Rumble, Zoop. On avait un consortium avec MrBeast, le YouTuber, oui, et un autre avec Tim Berners-Lee. Mais bon, alors, celui qui aurait été parfait pour ça, évidemment, c'est Bobby Kotick. Imaginez, Bobby Kotick TikTok. Ça aurait été absolument fantastique.
Eh oui.
Donc on avait pas mal de n'importe quoi aussi, et puis on avait évidemment le plus crédible, l'attendu comme Oracle, qui est sur le coup depuis 5 ans quand même. Mais bon, ça c'était avant l'apocalypse, je veux dire, une apocalypse qui a commencé le 2 avril, même si c'est quand même une énorme blague. Maintenant que les États-Unis ont déclaré la guerre commerciale au monde entier, que les Chinois en particulier sont vraiment visés de manière assez intense, eh ben du coup ça facilite pas les négociations avec Biden, quoi, tu vois, c'est un petit peu mal barré. Le gouvernement chinois n'était pas chaud, de base. Bon, là, je pense que c'est un petit peu mort. Parce que, c'est fini, quoi. Donc, on va attendre 70 jours, et puis, il n'y aura probablement pas d'accord. Donc, il y aura sans doute un autre report, ou bien, voilà, que dalle. TikTok continue d'exister dans les limbes, et toute cette histoire ne sera plus suivie que par les pauvres podcasteurs captifs de la news, qui se sentent forcés de finir ce qu'ils ont commencé, quoi.
C'est vrai, t'as raison. Oula, j'ai rigolé, j'ai eu une alerte de Sylvie qui m'a dit que mon microphone était bruyant. Tu vois, on y a gagné par rapport à Skype. Oui, c'est bien.
Nous surveille.
Excellent, Sylvie. Il faut quand même qu'on le souligne quand même dans cette histoire. On parle tout le temps. Ah, qui c'est qui va racheter TikTok? Encore faudrait-il que la Chine accepte de le vendre, ce truc. Bon, on va parler de la hausse substantielle des frais et des taxes sur l'importation aux États-Unis, Guillaume, parce qu'évidemment, c'est un gros sujet politique, certes, mais il a des répercussions énormes sur le monde de la tech.
Alors, vous n'avez pas pu passer à côté, hein, j'imagine. Donald Trump a mercredi dernier lâché sa grosse déclenché donc le alors déclenché ce que le site The Register a très astucieusement appelé World War Fee, la guerre mondiale des taxes.
C'est beau.
J'aime beaucoup. Donc ça a commencé au moment où je regarde. Hein, bon, ce n'est le 8 avril 2025. C'est un véritable bain de sang hein, sur les bourses mondiales, comme disent les vrais journalistes financiers en termes techniques. En cause, bien sûr, cette interminable liste de tous les pays du monde avec des pourcentages en face, dont certains ont soupçonné qu'il avait été fait par une IA. Je suis sûr que non. Il n'y a aucune forme d'intelligence qui a jamais été employée par ce gouvernement, de toute façon. Alors, bien sûr, ces valeurs, si théâtralement montées, ne correspondent pas du tout à ce que nous dit Trump, puisqu'il dit que c'est la manière dont les pays taxent les États-Unis. Rien n'est plus faux. Hein. On connaît la formule utilisée, d'ailleurs. Hein. C'est tout simplement le déficit commercial américain vis-à-vis d'un pays rapporté aux importations totales de ce pays et sa mise en pourcentage. Ça n'a aucun rapport avec les taxes. L'Europe taxe en moyenne de 5% à peu près les biens américains et absolument pas à 39%, comme l'affirme Trump, pour justifier une taxe réciproque de 20%. On en arrive à des cas absurdes et extraordinairement injustes, hein, comme le Lesotho, taxé à 50%. Il est puni parce qu'il profite des États-Unis pour s'enrichir. Tu vois, c'est connu, quoi. Il pète dans la soie au Lesotho. Le Lesotho, bah, il exporte massivement des vêtements. Des vêtements pas chers hein, vers les États-Unis. Plus de la moitié de la population là-bas vit avec moins de 3,5$ par jour. Donc comment dire, ils n'ont pas des masses les moyens pour un iPhone 16 Max. Le Lesotho, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, et c'est un pays, les pays les plus pauvres, d'ailleurs, sont disproportionnellement touchés par ces taxes. C'est injuste et c'est purement stupide, d'ailleurs, aussi pour la sécurité mondiale. Hein. C'est, bah, d'ailleurs, il y a eu une conjonction de trucs. On peut par exemple citer le Myanmar. Le Myanmar, il y a eu une grosse conjonction là. Le Myanmar, il a été taxé à plus de 40%. Et au Myanmar, récemment, il y a eu un séisme qui a fait des milliers de morts. Le pays était déjà en pleine guerre civile. Et t'imagines comment les taxes vont tout arranger. Alors, même en restant cynique, on s'en fout, ok, c'est pas chez nous, quoi. D'accord, mais bon, est-ce que c'est dans l'intérêt de quelqu'un que des pays soient à ce point dans la merde? Le Myanmar, c'est devenu, du coup, une plaque tournante de l'arnaque en ligne. Les chefs de guerre du coin annexent des villes entières où des esclaves qui viennent d'un petit peu partout sont obligés de texter 24h sur 24 des gogos qui pensent avoir trouvé la mort. Ce sont des zones de non-droit, des zones comme des zones sans loi, et il y a des gens qui disparaissent tout le temps, à tel point que ça pète le tourisme en Thaïlande, qui est juste à côté. Il y a eu un coup de filet récemment, hein, par là-bas. Sous la pression chinoise, il y a dans les 100 000 personnes qui seraient retenues prisonnières, hein, dans des diverses villes que les mafias contrôlent totalement et où elles bloquent tout. Je sais que ça part hors sujet, hein, mais des pays qui s'appauvrissent, ça devient moins sûr, et le crime international se nourrit de ça. C'est un truc à plusieurs centaines de milliards de dollars, hein, l'arnaque en ligne, hein, chaque année. Et les US, ben, ils font rien pour arranger tout ça. Bon, là, évidemment, le bordel est mondial. Les économies vont se contracter, hein, des produits plus chers partout, il y a moins d'achats, moins de bénéfices, ben, ça fait moins d'emplois aussi, moins de pouvoir d'achat aussi pour les gens. Les banques, les banques en particulier JP Morgan, pensent qu'on a 60% de chances d'entrer en récession. Donc ça va être rude, c'est vrai, sans aucun doute. C'est aussi une opportunité, en fait. On peut voir ça comme une opportunité. Et, bah, parce que, bon, changer l'ordre mondial en soi, pourquoi pas? C'est pas comme si tout était parfait avant, quand même. Hein. Si on achète moins de trucs, moins loin, mieux fabriqués, dans des meilleures conditions pour les travailleurs et plus respectueuses de l'environnement, tout ça. Et puis, si les États-Unis sont plus au centre du jeu, parce que plus personne n'a envie de bosser avec ces emmerdeurs, ben, ça peut être une occasion de faire autrement et pourquoi pas mieux. Alors, évidemment, c'est extrêmement complexe et délicat de faire ça. Et comme Trump a chié ses tarifs comme un éléphant qui a une diarrhée explosive, ben ça déstabilise un petit peu, c'est sûr. Ça va pas être simple de s'adapter et ça va faire mal. Bon, au moment où je parle, hein, le Nasdaq et le Dow Jones ont perdu 10% par rapport à il y a 5 jours. Quoi. De notre côté, le CAC 40, c'est pareil, hein, globalement, il a pris 10%. Les bourses asiatiques aussi ont dévissé. Il y a un début de rebond. Alors je remarque malicieusement, au passage, que le Bitcoin s'est aussi cassé la gueule avec tous les autres indices, exactement comme d'habitude. Parce qu'à chaque crise, au lieu de monter comme le ferait probablement une valeur refuge isolée des turpitudes du monde, eh ben il se casse la gueule exactement comme tout le monde pareil. C'était la même chose pendant le Covid. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça montre encore une fois que le Bitcoin est donc en très 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 grande majorité une valeur totalement spéculative et qu'on revend en premier quand on a besoin de vrai argent. Enfin bon, Trump veut un nouveau monde. Bon, je pense qu'il l'aura, hein, mais bon, les États-Unis seront plus au centre. Ils ont perdu pas mal de street cred là ces derniers temps et la Chine a très bien compris. Elle sera ravie de se poser en modèle de stabilité après tout ça.
Les États-Unis pourraient bien devenir un peu ce gamin de la cour d'école dont les parents sont très riches et qui la ramène tout le temps, qui est un peu toxique et au bout d'un moment qui se fait ignorer par les autres et qui vont jouer dans leur coin sans lui. On peut presque l'espérer ou espérer que ça fasse changer un petit peu la tournure des politiques, ce qui n'est pas impossible. On termine peut-être du coup sur ce sujet, Guillaume.
Oui, bah oui, alors évidemment, qu'est-ce qui, pour plus précisément dans la tech, après, bon, voilà, c'est, ça a été beaucoup relié dans la presse générale aussi, mais bon, c'est évident, la plupart des grosses boîtes américaines, et tech en particulier, importent massivement parce qu'elles utilisent des biens et de la main-d'œuvre qui peu cher, hein, alors au Vietnam, en Thaïlande et en Chine, bien sûr. Alors, entre autres, hein, la Chine a été frappée de 34% de droits de douane. Alors, elle a répliqué, du coup, en représailles avec la même, hein, voilà, et en plus des restrictions sur les terres rares. Et donc, Trump a surenchéri avec 50% de taxes en plus. Je crois que là, ils sont à 104%.
Ah, on est dans, ah, j'avais pas re-suivi
ah,
cette...
Ah si, si, on est carrément dans un début d'escalade. Et ça, vous vous doutez que ça met Apple dans une situation un poil délicate.
Ah oui.
Les valeurs tech, d'ailleurs, sont nettement parmi les plus durement touchées. Apple a perdu 17% en 5 jours. Tesla 11, Nvidia 10, Meta aussi. Nintendo a suspendu les précommandes de la Switch 2 aux États-Unis. Framework arrête purement et simplement de commercialiser ses PC les moins chers, sur lesquels il devient déficitaire. Apple fait décoller en catastrophe des avions d'Inde bourrés d'iPhone pour faire des stocks et essayer de repousser un petit peu l'échéance. Et puis, cette échéance, c'est quoi? C'est la hausse des prix généralisée. Ça a déjà commencé et ça va s'accroître sur une multitude de biens, aux États-Unis, hein, en tout cas, en premier lieu. Temu et Shein, ils vont le sentir passer, hein, parce que l'exemption de minimis, elle va disparaître bientôt aussi, en plus de tout ça. Mais plus généralement, tout ce qu'il y a de l'électronique dedans sera plus cher. Et à peu près tout, en fait, hein, puisque les États-Unis importent massivement des biens, mais ils exportent massivement des services, ce dont Donald n'a manifestement pas conscience. Alors, il y a des exceptions à ces taxes. Il y a des exceptions sur les produits pharmaceutiques et aussi sur des produits technologiques. Le problème, c'est qu'il y a des barèmes qui sont extrêmement compliqués et qui sont très, très limités. Et en fait, il y a 4/5 des importations qui seront quand même taxées, quoi. Alors, donc, ça sera probablement au cas par cas. Enfin, bon, ça va être un bordel innommable. Les prix vont monter, hein, parce que le monde est mondialisé, quoi, hein, et que les États-Unis sont au centre de cette mondialisation. Alors, évidemment, l'idée, je sais bien, c'est de ramener la production aux États-Unis. Et c'est souvent largement illusoire. Et puis, de toute façon, même si ça arrivait, ça ne permettra pas de retrouver les prix actuels. Si tu prends l'exemple de Nintendo... Nintendo, ils avaient senti le vent déjà. Ils avaient petit à petit passé les chaînes de fabrication de Chine au Vietnam. Et là, paf la taxe. Le pays se mange 46%. Et ça, Nintendo, manifestement, il n'avait pas anticipé. Il est carrément probable que le prix de la Switch augmente nettement aux États-Unis. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Nintendo, est-ce qu'il va avoir des usines aux États-Unis pour faire des Switch américaines? S'il le fait, il va falloir qu'il paye. Hein. Ça va être un investissement massif. Et puis, il va devoir le rembourser, cet investissement, à un moment ou à un autre. Et en plus, faire travailler des Américains, c'est beaucoup plus cher que de faire travailler des Vietnamiens. Et c'est sans doute pareil pour le prix des terrains, des loyers, de l'énergie, sans compter qu'il faudra sans doute quand même importer des pièces. Au final, les futures Switch 2 Lite ou Switch 3, parce que de toute façon, ça va prendre 5 ans, hein, elles seront chères, parce que fabriquer aux États-Unis, c'est plus cher. Alors du coup, tu fais quoi? Tu te lances dans un truc super cher et compliqué pour avoir au final une machine qui est quasi aussi chère? Non, hein, tu montes tes prix, voilà, tu les encaisses, hein, tu fais encaisser les prix aux consommateurs. Puis après, tu attends, parce qu'avec un peu de chance, dans 2 ans au mid-term ou dans 4 ans, tout changera. Le problème, c'est exactement le même pour Apple. Et pour bien d'autres, hein, surtout qu'il y a des choses que les Américains ne peuvent pas produire, ou virtuellement pas. Soit ils n'ont pas le savoir-faire, soit ça leur coûterait des fortunes colossales de créer toutes les infrastructures, comme pour les terres rares. Hein. Et puis il y a même des fois où est-ce qu'ils ont vraiment envie de le faire, c'est pas clair. C'est pas un hasard, hein, si la Chine a le monopole du raffinage et des minerais. C'est pour une bonne raison, hein, c'est parce que c'est crade. C'est dangereux, c'est polluant et personne ne voulait le faire en réalité. Tout le monde est très content que la Chine le fasse. Bon, alors après, nous, on fait quoi? Les États-Unis étaient déjà en train de se tirer une balle dans chaque orteil. Bon, là, ils ont visé le pénis directement, hein, mais bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait prendre du pop-corn et laisser couler. Alors, en ce qui concerne la France, nous, on n'est pas super dépendants des États-Unis pour les exportations. Mais bon, un peu quand même, hein, et on s'attend à 0,2 points de croissance en moins l'an prochain. Ça fait pas du bien. Alors qu'on cherche du pognon dans la moindre poubelle, ça va pas faire du bien. Mais bon, on n'est pas l'Allemagne, ou la Suisse, ou le Vietnam. Imposer des taxes réciproques, c'est compliqué, hein, parce qu'évidemment, ça nous nuirait à nous aussi. Il y a notre pouvoir d'achat, donc l'Europe, elle est en train de choisir un angle d'attaque assez logique, hein, puisqu'il faut leur nuire le plus possible, et nous nuire le moins possible. Et donc, le plus logique, ce serait les services numériques. Les États-Unis importent massivement des biens et exportent massivement des services, donc la cible est toute trouvée, c'est les services tech. Si on trouve un accord entre nous, peut-être que ça va passer, mais sinon, oui, c'est la cible. Alors Musk, qui est un petit peu embêté, il est suggéré d'annuler tous les tarifs entre l'Europe et les États-Unis. Donc voilà, on va voir si ça se concrétise. Hein. C'est peu probable, mais bon. va savoir.
Je doute qu'il arrive à convaincre tonton Donald. Et oui, hein, le point qu'il faut bien garder à l'esprit, mais j'imagine que vous l'avez déjà vu passer dans pas mal d'analyses maintenant, c'est qu'évidemment, les entreprises ne vont pas répercuter la hausse des prix uniquement aux appareils qui sont vendus aux États-Unis. Il y a de bonnes raisons de penser que l'iPhone ne coûtera pas plus cher quand il est importé aux États-Unis uniquement, ou en tout cas dans une grande quantité. Il sera sans doute un peu plus cher partout pour absorber cette hausse et qu'elle soit la moins violente possible. Et ça pose une nouvelle fois des questions sur lesquelles j'ai commencé à me gratter la tête, Guillaume. C'est l'utilisation, justement, hein, d'un Patreon dont je fais la promotion et dont je ne peux que encenser le fait que vous puissiez envisager un soutien à Tech Café. Et voilà, Patreon, c'est une fois de plus une plateforme américaine. Alors très cool, hein, qui est vraiment très très chouette. Mais quid des services numériques à l'avenir? Je pense que c'est pas là, d'ici le mois d'avril, mai 2025, qu'il va y avoir des problèmes ou des difficultés particulièrement ingérables. Mais ça pourrait arriver et moi, ça me motive à essayer de trouver une solution alternative, idéalement 100% européenne, idéalement ne dépendant pas de services de paiement américains. Et c'est d'autant plus difficile parce que PayPal est omniprésent, Visa, Mastercard, bien évidemment. Il y a tous les services de paiement qu'on a l'habitude d'utiliser de type Stripe. Tout ça, c'est américain. Donc finalement, se ré-européaniser, j'y suis arrivé. Certains commencent à lister un petit peu les services et les équivalents qui existent en Europe. Ben, finalement, ce n'est pas si simple que ça, mais il faut se retrousser les manches le plus tôt possible pour essayer d'y arriver. Et j'ai l'impression que c'est quand même un mouvement vers lequel tout le monde se dirige, en Europe en tout cas. Tu as donné le mot-clé, Guillaume, tu as parlé de Nintendo et de Switch. C'était le déclencheur pour le début de la rubrique jeux vidéo. On ne va pas avoir des milliers de choses à raconter, mais quand même, il faut qu'on parle un petit peu de cette annonce de la Switch 2, Guillaume.
Et oui, elle a été présentée plus en détail avec des jeux, une date de sortie et des prix. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, hein. Une conférence qui m'a laissé un goût un petit peu amer, comme une chicorée aux endives. Pourtant, en elle-même, la console, elle est pas mal, hein, la Switch. Hein. D'ailleurs, bon, elle est même tellement Switch 2 que ça en est désarmant. C'est vraiment la même chose en mieux, quoi. Elle a un écran plus grand, qui n'est certes pas OLED, mais qui est tout de même très bon. C'est un écran HDR 120Hz, avec un taux de rafraîchissement variable. La console, nous dit Nvidia, parce que Nintendo dit que dalle, elle est 10 fois plus puissante, oui, c'est précis. Elle supporte aussi le DLSS et le Ray Tracing, même si on a vu absolument aucun de ces deux trucs mis en valeur. Bon, j'ai envie de vous dire, heureusement, hein, la Switch, elle est sortie il y a 8 ans quand même, alors que la Switch 2 soit 10 fois plus puissante, d'accord. La Switch 2, elle est plus grande, elle est aussi fine que l'ancienne, donc elle est quand même plus grande, et donc du coup, elle est aussi ergonomiquement plus agréable, quoi. Les Joy-Con sont révisités, ils sont magnétiques.
Ça se discute, ça. Les retours ne sont pas unanimes en ce sens, comme elle est aussi fine et plus grande, a priori, pour beaucoup, c'est moins confortable à la prise en main, quoi.
Elle est peut-être un peu plus lourde, ça je sais pas exactement, j'ai pas regardé les poids. Après, ça dépend, c'est toujours agréable d'avoir un plus grand écran, disons. Mais bon,
c'est vrai.
C'est... Bon, en gros, elle a l'air effectivement très sympa à utiliser. Hein. Elle est plus orientée multijoueur en ligne avec un micro intégré. Vous pouvez faire des sortes de zoom dans votre jeu, quoi, avec votre tête, hein, si vous avez une webcam en plus. Ou des Skype, mais bientôt plus personne ne saura ce que c'est. Ou bien juste des streamings de partie, parce que parfois tu peux juste, si t'as pas la caméra, tu peux juste streamer ta partie, quoi, tout simplement ce que tu vois sur ton écran. Tout ça, c'est cool, il y a un bouton dédié, d'accord. Bon, la Switch 2 est rétro-compatible. Il y aura un mélange d'émulation et de hardware assez proche, donc il y a pas une couche, d'émulation, virtualisation, un truc comme ça. La grande majorité des jeux devraient marcher, mais pas tous. Et on ne sait pas encore vraiment combien, puisque Nintendo est en train de tester les 15 000 jeux sortis sur la plateforme. Hein. Bon courage à eux, hein. Bon courage pour les simulateurs de bébés, les trucs. Bon. Est-ce que j'oublie un truc qui monte... Ben non, mais 15 000 jeux sur la Switch, je te dis pas, j'ai... Ouais. Les trucs à découvrir. Est-ce que j'oublie un truc qui montre à quel point la Switch 2 est vraiment une Switch 2 oui. Je crois, je sais pas. J'ai pas donné la date de sortie. Elle sort le 5 juin, sauf aux États-Unis. Le prix, c'est quoi? Le prix, c'est 469€ quand même, hein, et c'est cher. Alors la Switch, elle est sortie à 330. Alors oui, je sais, inflation, tout ça, ok. Ben, en euros constants, 330€ de 2017 et 390€ de maintenant, d'après l'INSEE. Et parler de l'inflation, c'est bien, c'est que la moitié du sujet, hein, parce que le prix, c'est bien, mais le pouvoir d'achat, ça compte aussi. 469€, c'est 42% plus cher que 330. Est-ce que votre salaire a augmenté de 42% en 5 ans? Si c'est le cas, tant mieux pour vous. c'est plus cher, c'est quand même plus cher qu'une PS5 Slim. Donc je pense que c'est quand même positionné cher pour une cible familiale, hein, qui est la cible de la Switch en général. Technologiquement, est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas vraiment, puisqu'on n'a aucun détail technique. Je ne sais même pas combien ce truc a de RAM. Ce que je peux voir, c'est qu'on a globalement une puissance de PS4 et qu'on a globalement, du coup, une machine qui peut se comparer à la louche, évidemment, à une Steam Deck, par ses fonctionnalités, sa puissance et même son prix. Il y a une tu peux avoir une Rogue-Ally avec un Z1 Extreme pour 500 balles, c'est-à-dire globalement la même chose, quoi. Or, ces machines sont quand même beaucoup plus flexibles, polyvalentes, et puis ben, le prix des jeux, comment dire, c'est pas le même. Hein. Ce qui nous amène à parler des jeux, d'ailleurs, hein, ce qui est un autre problème. Donc,
enchaînons sur les jeux et leur prix.
Ben, il y aura plein de jeux sur Switch 2 dès
le lancement. Et leur modalité, puisque... excuse-moi, leur format, quoi.
Oui, leur format. Ben, elle sera rétro-compatible, donc évidemment, il y aura plein de jeux. Il y aura aussi des éditions Switch 2 améliorées de jeux classiques, comme les Zelda. Il y aura aussi des patchs qui seront payants ou pas payants. Bon, c'est pas trop pour les autres. Les éditions Switch 2 des Zelda seront payantes, hein, vous inquiétez pas, tout est payant. Même la démo de la console coûte 20 balles. On va avoir toute une brouette de rééditions de jeux AAA de génération PS4, hein. De la Street Fighter 6 par exemple, Final Fantasy 7, Bravely Default, Elden Ring, et même Cyberpunk 2077, et c'est bien, hein, c'est clair, hein, ceux qui n'auront pas pu y jouer, enfin ceux qui n'avaient pas pu y jouer à l'époque, pourront se les faire en portable, ça c'est très cool. Vous attendez pas des miracles, hein. Le rendu c'est clairement de la PS4 et pas de la PS5. Elden Ring, bon, il rame même dans la banane en ce cas.
Ah ouais, même dans la banane. Au moins, c'est... ils sont honnêtes. Tu vois, on ne peut pas leur reprocher de nous mentir là-dessus.
Mais bon, Cyberpunk, il est ni très fluide, ni très propre. Il tourne, alors il tourne mille fois mieux que la version PS4 initiale. Hein. Mais bon, c'est clairement pas les meilleures versions des jeux, quoi, évidemment. Et il y aura une exclue d'ailleurs qui te fait peut-être saliver déjà, Guillaume. Hein. C'est pour ça que tu as précommandé.
Évidemment.
C'est Duskblood, une exclusivité Switch 2 qui est une sorte d'Eldenborn, en quelque sorte, hein, puisque ça semble être un successeur de Bloodborne. Avec des plans qui rappellent furieusement Elden Ring, quand même pas mal. Ça a l'air d'être une sorte de vampire dans un truc très très gothique. Ça semble être orienté vers le multi aussi, puisqu'on parle de PVPVE. Alors, on n'en sait pas plus, donc je ne sais même pas exactement comment ça se joue. Sinon, c'est que c'est artistiquement très beau et que ça tourne sans doute aussi sur le moteur d'Elden Ring et que bon, on est clairement sur une qualité Elden Ring PS4, quoi, globalement. La console étant plus puissante, bonne nouvelle pour les rétro gamers. La GameCube devient émulée, elle aussi, et donc vous aurez Zelda Wind Waker disponible tout de suite en Day One. Côté exclu Nintendo, on a annoncé un Kirby, un jeu de course Kirby, un Donkey Kong, à moins une Minecraft, on peut faire des trous partout, et un Mario Kart en open world, qui est très joli, mais qui reste quand même très très Mario Kart. Et puis c'est le drame, puisqu'on a appris le prix de ce Mario Kart, qui est de 90 balles. Ce qui passe quand même au-dessus d'un jeu PS5. Donkey Kong sera à 80 balles, et donc on est sur des jeux Switch 2, qui pourrait donc allègrement coûter aussi cher, voire plus cher que des jeux PlayStation 5, tout en étant quand même techniquement de niveau PS4. Hein. Les rééditions coûteront probablement moins cher, mais enfin, ça parle quand même de 60€ peut-être pour un Street Fighter 6, ça va varier. Disons que les prix nominaux des jeux Switch ont fait parler pas mal de monde. La zone de discussion d'une émission en direct proposée par Nintendo of America était littéralement spammée de commentaires appelant à baisser les prix. On s'attendait quand même à ce que GTA 6, par exemple, essaye de faire bouger les lignes, de passer à 90 balles au lieu de 80, on s'attendait pas du tout à ce que Mario Kart, avec la production value de Mario Kart, quand même, se le permette. C'est un mauvais signal à l'industrie parce que les jeux sont déjà chers. Hein. On est passé de 80 balles sur PlayStation 5 et, bon, on nous dit que c'est justifié par les coûts de production, par des jeux toujours plus beaux, etc. Ok, mais bon, vu la puissance de la Switch 2, c'est un argument qui paraît un peu léger. Et le Switch au PC est d'autant plus logique, parce que les prix des jeux PC sont très nettement inférieurs aux jeux consoles. En plus, vous pouvez faire du modding sur PC. Et puis, bon, ben, y a beaucoup de jeux gratuits. Et puis, bon, on va pas se voiler la face. Il y a beaucoup de jeux que vous pouvez rendre gratuits, on va dire. Bon, évidemment, on perd un avantage des consoles, le support physique. Voilà, qu'on peut prêter, changer, revendre, etc. Et justement, ce qui me rend le plus amer, hein, quand je parlais de Chicorée, bon, ben, c'est que Nintendo vend 10 balles moins cher le même jeu au format dématérialisé. Et en faisant ça, Nintendo nudge les gens vers le démat, surtout avec les prix annoncés, quoi. Parce que voilà, 90 balles, c'est toujours 10 balles de prix, quoi. Et bon, Microsoft est à fond de tout démat, même streaming et Game Pass, tout ça, tout ça. Sony teste une PlayStation 5 Pro sans lecteur physique par défaut, et il en produit peu. Je suis déçu que Nintendo, lui aussi, à sa manière, torpille un peu le support physique. Et sur le long terme, je ne sais même pas si c'est une bonne idée, parce que finalement... Qu'est-ce qu'il reste aux consoles si les commodités du support physique n'existent plus? C'est un écosystème fermé sur lequel, enfin, sur lequel tu ne possèdes rien ou tu ne contrôles rien, finalement, et sur lequel tout est surfacturé. La Switch rend bizarrement le PC plus séduisant que jamais, surtout que maintenant ils sont portables. Restent les licences Nintendo, bien entendu, c'est sûr, hein, les exclus, mais bon, ça reste quand même une proposition qui n'est pas évidente à vendre, et Nintendo n'est pas à l'abri d'un échec. Hein. On se souvient de la Wii U. Bon, certes, la Wii U, c'était un concept qui était assez risqué, assez osé, alors que c'est vrai que la prise de risque de la Switch 2, elle est vraiment minimale. Hein. Mais bon, on se souvient aussi de la 3DS. 3DS, évolution d'une console qui était ultra populaire, qui est sortie trop chère et qui ne s'est pas vendue. Elle est sortie en mars 2011, et en juillet, son prix a baissé d'un tiers. C'était historique. Hein. Nintendo a d'ailleurs dû mettre en place le programme Nintendo Ambassador hein, pour ceux qui l'avaient acheté trop cher en leur filant des jeux gratuits. La Switch 2 est-elle la nouvelle 3DS? Je sais pas, ou pas du tout. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Est-ce qu'elle sera juste un énorme carton comme l'ancienne? On verra bien.
Ce sera jamais de la vie un échec, Guillaume. Je t'en mets ma main à couper. Je suis convaincu que ça va être un carton commercial. C'est impossible que ce soit un échec. Il y a un truc qui est très intéressant. Alors, au passage, hein, enfin, moi, j'abonde dans tout ce que tu dis et mes impressions ont globalement été aussi ça pique quand même quand tu vois ces prix. Et notamment aussi ce mouvement du démat. Tu n'as pas parlé, par contre, du format des game key cards ou des game card key, enfin, je ne sais même plus comment les appeler, qui sont cette espèce d'hybride embryon bizarre entre une cartouche clé dans laquelle tu n'as pas le jeu où il faut le télécharger. Ce qui finalement est un peu le fonctionnement de beaucoup de jeux consoles maintenant, puisque quand vous achetez un jeu, vous avez un support physique, mais qui représente une petite portion du jeu. De toute façon, il faut le télécharger globalement avant son lancement. Donc, quelque part, ça ne change pas grand-chose là-dessus. Nintendo a confirmé entre-temps que ces Game Key Cards ne seront pas figés à la console. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu peux les revendre d'occasion. J'allais dire en tout cas, pour l'instant, on verra ce que ça donne. Mais là où je fais évoluer un petit peu ma réflexion, Guillaume, c'est quand tu as ta clé de lecture sur l'évaluation de la console par rapport à ses performances techniques. Et c'est bien légitime que ce soit la base d'une évaluation d'une console de jeux vidéo et quelque part d'un ordinateur, d'un matériel informatique. Après, je pense que c'est aussi limitant de raisonner que par ces performances techniques-là, simplement par... En fait, je regarde le cas autour de moi. Quels sont les acteurs de jeux vidéo qui parviennent à faire jouer toute la famille à des jeux sur une console donnée? Eh bien, il n'y a que Nintendo. Franchement, quand je regarde autour de moi, les familles de 3, 4 personnes qui arrivent à se retrouver dans le canapé à faire un Mario Party ou un Mario Kart, et c'est une recette qui est décevante tellement elle est pauvre au niveau du renouvellement intellectuel dans le temps, parce que le principe d'un Mario Kart ou d'un Mario Party, il n'a jamais changé depuis le début, c'est toujours le même. Mais ils arrivent à faire ça. Et ils savent qu'en ayant moins de puissance technique, ils ont quand même la capacité d'en vendre. Et c'est pour ça que je suis convaincu que ce sera malgré tout un carton. Il ne faudrait quand même pas trop que les frais de douane aux États-Unis soient dans une surenchère sans fin, parce qu'au bout d'un moment, ça multiplierait le prix de la console. Je pense qu'on n'en est évidemment pas là. Juste un mot aussi sur le prix des jeux et des upgrades. On commence à voir évidemment que les jeux Switch 2 sont plus chers que la Switch 1. Il ne faut pas considérer qu'ils seront tous à 90€. Il y a tous les distributeurs là qui ont mis à dispo les jeux alors plus chers hein, que 45€ comme on les voyait en précommande. Ils dépassent allègrement les 60€. Ils ne sont pas à 90€ non plus. J'ai l'impression que ça tend à remonter le prix un peu au niveau des jeux qu'on pouvait trouver dans notre inconscient collectif des AAA des autres consoles. Enfin, en tout cas, pas forcément des AAA, mais des sorties de jeux dans les autres consoles. Donc voilà, c'est extrêmement perturbant parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'on achète un matériel qui vaut moins cher que ce qu'on dépense comme argent pour l'avoir. Il y a aussi ces données-là qu'il faut garder à l'esprit, je pense, quoi. Bref. Et donc, vous avez compris, je tente de me justifier comme un drogué sur le fait qu'évidemment, je l'ai précommandé.
Enfin.
Bah, je suis honnête. Un petit mot aussi. Je pense que la Switch, ça fait partie de ces consoles qui sont largement répandues en plusieurs exemplaires dans plein de familles et qui a vraisemblablement peut-être une Switch qui peut être reprise ou revendue d'occasion pour aider à acheter la Switch jeu. Je prétends pas du tout que Nintendo a eu cette stratégie-là hein, du tout en positionnant le prix, mais gardez-le à l'esprit, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi attendre parce que finalement, quand on voit tout le catalogue de la Switch 1 qu'il y a à faire, je doute que vous l'ayez épuisé et vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir la dernière version de la console pour jouer à Luigi's Mansion, à Mario Kart précédent ou à Mario Party. Je ne sais pas si tu voulais dire un dernier mot sur cette Switch ou sur d'autres
non,
sujets.
Non, j'ai déjà bien assez parlé, je pense.
Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode, ce travail d'analyse et ce regard sur l'actualité des nouvelles technologies. Merci surtout beaucoup à vous qui nous écoutez, parce qu'avant tout, le fait que vous écoutiez Tech Café, c'est notre moteur principal. C'est parce qu'on sait qu'il y a des écoutes chaque semaine et qu'il y a aussi vos retours. Retour que vous pouvez faire sur techcafé.fr dans les commentaires en laissant un avis sur les apps de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou même sur Spotify. Et puis, bien évidemment, vos remarques et vos discussions enflammées sur la tech, mais aussi sur d'autres sujets, sur le serveur Discord. En attendant, vous allez pouvoir nous retrouver chacun individuellement en attendant le prochain épisode. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver ?
Eh bien, on ne va pas pouvoir me retrouver parler dans les prochains épisodes pendant 2 semaines. Je vais être absent, justement. Je vais être
loin,
très, 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 très loin.
Mais non !
Désolé. Yo.
Allez, on va te retrouver quand même dans un épisode supplément qui arrivera en fin de semaine, sur lequel il y aura des prises de position qui, je l'espère, seront de nature à vous faire vous poser des questions sur le plan notamment politique. Si vous êtes vraiment allergique au sujet politique, j'allais dire, risquez quand même votre chance d'écouter cet épisode. Ça pourrait peut-être contribuer à vous ouvrir les yeux avant de finir de vous énerver. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur bluesky.guillaumevendée.fr et puis sur des plateformes de vidéos, et notamment Guillaume, je suis fier de t'annoncer que ça y est, j'ai terminé Zelda Echoes of Wisdom. Il est génial ce jeu, faites-le si vous aimez les Zelda, il est trop bien, les musiques sont incroyables et participent à l'immersion du jeu, c'est vraiment top. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup de rester abonné à Tech Café. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.
Merci Sylvie.
Merci Sylvie.